Donc je disais qu'on s'approche à grands pas de Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah, on va lire une haftara très particulière. Une haftara d'ailleurs qui s'achète à prix d'or, qui s'appelle la haftara de Chana. Alors je vais vous raconter en quelques mots, parce qu'on aurait pu passer un cours entier à raconter cette histoire. Je vais vous raconter en quelques mots l'histoire de Chana, et surtout l'objet de notre cours d'aujourd'hui. C'est de comprendre pourquoi on a besoin d'en parler le premier jour de Rosh Hashanah. Je veux dire, c'est pas rien, c'est quand même un jour très important. Donc on n'est pas là pour raconter des histoires. Et surtout, quel enseignement on peut en tirer pour nous dans la vie de tous les jours. Alors, rapidement, je raconte l'histoire. L'histoire est racontée dans le livre de la Bible, Samuel. Dans Samuel 1, Shmuel Aleph. On raconte qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Elkana. Et il avait deux femmes. La polygamie à l'époque était autorisée. Une femme qui s'appelait Chana, c'était sa femme a priori préférée, et une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Seulement, Dieu a fait en sorte que Pénina avait des enfants, et Chana n'avait pas d'enfants. Alors évidemment, si déjà pour une femme, le fait de ne pas avoir d'enfants, et pour un homme aussi, c'est douloureux, à plus forte raison lorsqu'elle a une rivale en face, qui lui rappelle sa douleur, et en plus Pénina s'arrangeait pour trouver les occasions pour rappeler à Chana le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et donc, Chana était marat nefesh. Ça veut dire elle était amère. Elle avait l'âme qui était amère, elle n'était pas bien. Et elle pleurait tout le temps. Et surtout que sa rivale n'arrêtait pas de la taquiner avec des allusions, etc. Dit, oui, toi, t'as pas d'enfant. Et son mari, non mais là c'est pire que Sarah, parce que là c'est deux femmes, c'est pas une servante, c'est une femme. Et son mari essayait de la consoler en lui disant, mais tu sais, moi je suis mieux pour toi que 10 enfants, ça veut dire pour moi t'es plus importante que tout, et moi pour toi je suis comme 10 enfants. Mais Chana évidemment, ça ne suffisait pas pour être consolée. Elle voulait des enfants. Alors elle est arrivée. Donc bon, il y a toute une histoire là-bas, on raconte comment chaque année, lorsqu'on venait au temple pour pèleriner, elle voulait pas venir. Parce qu'elle dit, pourquoi je veux venir? Je veux venir pour qu'on rappelle que j'ai pas d'enfants, que je prends pas la part de mes enfants, etc. Elle voulait pas venir. Une fois, elle a craqué, cette Chana, et elle est partie au temple. À l'époque, le temple n'était pas à Jérusalem, il était juste à côté de Jérusalem. Il était à Shiloh, temple de Shiloh. Et qui était le Cohen de l'époque? C'était Eli. Aïli, pas Eli, comme le nom. Aïli avec un Aïn. Et Aïli, c'était le grand Cohen, le Cohen Gadol, et c'était aussi un juge, le juge d'Israël, qui était le juge principal. Et Chana, elle a prié là-bas, et elle a fait un éder, elle a fait un vœu, elle a promis à Dieu, elle a dit que si tu me donnes un enfant, je te promets, à Kadosh Baruch Hu, de te le donner. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va le tuer, Chazé Shalom. C'est-à-dire qu'elle a promis à Dieu que cet enfant sera dédié pour Dieu. Ça sera un enfant consacré à Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que Chana, elle a prié longuement, et qu'elle a prié surtout en silence. Chose inédite à l'époque. Comme nous dit la Gemara, dans le traité Brachot, il faut remarquer que la majorité des halachot de la Amida, de qui on les a apprises de Chana. Jusqu'à cette époque-là, comment les gens priaient? Ils priaient à voix haute. Parlaient à Dieu comme nous on parle. Et Chana, c'est la première qui a parlé à Dieu d'une voix inaudible. Certains disent même qu'elle était une voix qui était inaudible par elle-même.
Même dans l'autre cas,
comme dans l'Amida.
Tout le monde parle.
Donc Eli, quand il voit ça, il se dit, mais j'ai devant moi une femme qui est saoule, qui a un comportement qui est bizarre, qui est pas normal, qui est incohérent. Donc il pensait qu'il y avait une femme. Il avait une... Et d'ailleurs, toute la larotte, hein, le fait qu'on ait les pieds joints, le fait qu'on se lève, le fait qu'on parle une voix inaudible, tout ça, on a pris de Chana. C'est Chana.
Elle était debout,
elle était debout. En tout cas, elle avait une prière debout. Après, peut-être qu'elle s'est prosternée, mais elle était, pas à certains moments, mais elle était debout. Et donc, je vous disais, je termine l'histoire, Eli pensait que cette femme était saoule. Elle pensait que c'était une femme qui a bu du vin, et que bon, elle a un comportement qui est incohérent. Alors, Eli, il ne l'a pas interrompu dans sa prière, mais après qu'elle ait terminé de prier, Eli lui a fait la remarque, il lui a dit, madame, on vient pas en état d'ébriété au temple, ça ne se fait pas. Alors, Chana, elle a répondu, elle a dit, mais je ne suis pas saoul, je suis en parfait état, d'accord, je réagis par faute de conscience, d'accord, Et elle a dit cette grande phrase qu'on va lire ensemble. Va'eshpor et nafshi lifne Hashem. Je ne fais qu'épancher mon âme devant Dieu. Eli a pris conscience de la véracité de ses paroles, l'authenticité de ses paroles. Il a donné une bracha qu'elle aura un garçon. Et effectivement, par la suite, elle a eu un garçon. Ce garçon va être nommé Shmuel. Et c'est lui qui deviendra plus tard un des plus grands prophètes, Shmuel Anavi, le prophète Samuel. Ok. Alors, on va lire quelques extraits de Haftara. Et évidemment, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. Le but, c'est de décortiquer cette histoire. Et pour montrer qu'a priori, c'est une histoire qui a ni tête ni queue. Elle ne tient pas la route. Mais bon, ça, d'abord, on va lire l'histoire. Vous savez, les histoires, ça endorme. Il ne faut pas s'endormir. On va lire dans la référence numéro 1, l'histoire. Où les Chana aiment Yeladim. Chana n'avait pas d'enfant. Donc Pénina avait des enfants, Chana n'avait pas d'enfants. Vaya ki irbeta leitpalel ifne Hashem, alors que Chana priait longuement devant Dieu, Eli, shomer et pia, Eli patienta. Ve Chana, hi medaberet aliba. Chana parlait en elle-même. Rak sfatea naot, on voyait seulement ses lèvres remuer. Ve kola loishamea, mais on n'entendait pas sa voix. Ça veut dire, certains disent que même elle-même ne s'entendait pas. Juste ses lèvres bougeaient. Exactement comme l'amida. Vayer Shevea, Eli le Shikora. Donc Eli l'a cru ivre. Il a attendu qu'elle a fini de prier, on l'a dit. Vayomer Eliar Eli, et Eli lui a dit, Admata Klishtakarin, combien de temps tu vas étaler ton ivresse comme ça? Asiri etienech malaïr, va cuver ton vin. Ok? C'est pas toi que je parle, hein. Donc elle lui dit, va cuver ton vin. Vatan, Chana, Vatomar. Chana a répondu, elle a dit, Lo Adoni. Elle dit, mais non, mon maître. Pas du tout. Ishak Shadroua Chanochi. Je ne suis qu'une femme au cœur navré. Veyain Vesherar, Lo Shatidi. Je n'ai pas bu ni de vin ni de liqueur. Vaeshpor et Nafshi Lifne Hashem. Je suis en train d'épancher mon cœur, d'épancher mon âme devant Hashem. Vayan, Eli Vayomer. Eli lui répondit, donc à Chana, il lui dit, Lechi le Shalom, va donc en paix. Véloqué Israël, était naché la terre, que Dieu t'accorde ta requête. Donc sa requête, c'est quoi? C'est d'avoir un enfant. Elle a eu un enfant qui est Shmuel. Très bien. Maintenant, c'est une très belle histoire. On va lire cette histoire. On va lire cette histoire Bezrat Hashem dans la haftara du premier jour de Rosh Hashanah. D'ailleurs, c'est une haftara qui est une ségoula pour avoir des enfants. Dit quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est une ségoula particulière qu'il achète cette haftara. C'est une ségoula pour avoir des enfants. Bah oui, parce que pourquoi? Quel rapport? Alors bon, il y a un rapport technique. C'est la Gemara Rosh Hashanah qui nous dit. Page 11, juste en dessous.
Sa prière a été entendue.
Exactement. Rabbi Yoshua il nous dit, Be Rosh Hashanah nifkeda Chana. C'est à Rosh Hashanah que Chana devint enceinte. Donc, comme c'est à Rosh Hashanah que cette bracha, cette prière est acceptée, donc c'est pour ça que nous aussi, Rosh Hashanah, c'est le jour dans lequel on va lire cette haftara. Seulement, évidemment, comme dit nous fait remarquer le Rabbi juste en dessous, il nous dit, Amechouvan dikriat haftara. Pourquoi on lit une haftara? C'est vrai que quand on lit une haftara, on essaie de trouver un rapport entre la haftara et le jour. Mais le but d'une haftara, c'est quoi? C'est pas juste de lire une belle histoire. Il y a un but derrière. Chez Yehudi, il m'admise ora'a ba'avodato. Le but de la lecture d'une haftara, c'est qu'un juif en tire une leçon dans sa façon de servir Dieu, be'shabatzo ou be'chagze. Ça veut dire que quand j'ai lu une haftara, la haftara par exemple de Azinu cette semaine, la haftara d'Azinu doit me donner un enseignement pour me montrer comment je dois servir Dieu Shabbat Azinu. Et donc, en l'occurrence, lorsqu'on parle de la paracha, enfin la haftara de Chana, qui est lue le premier jour de Rosh Hashanah, on doit trouver un enseignement dans la haftara de Chana qui doit nous aider à vivre notre Rosh Hashanah. Or, a priori, il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, c'est une belle histoire, mais je vois pas en quoi l'histoire de Chana va me changer mon Rosh Hashanah. Quel rapport? J'imagine quelqu'un qui a des enfants, etc. Quel rapport? Pourquoi on parle de la tefillah de Chana?
C'est le fait d'une prière qui est exaucée ou le fait de ses...
Oui, j'ai compris, mais je comprends. Mais concrètement, qu'est-ce que ça m'apprend dans ma vie? Qu'est-ce que cette histoire? Parce que dans une histoire, il y a un déroulement. Il y a plusieurs actes.
Mais au-delà de l'histoire.
Ah oui. Moi, ce que je cherche à comprendre, c'est quel est le fond de l'histoire? Vous savez, dans l'histoire, il y a toujours un déroulement. Ça veut dire qu'on croyait quelque chose et à la fin, il se passe quelque chose. Et donc, c'est ce que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que cette histoire m'apporte dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'elle m'apporte à Rosh Hashanah? Puisque le but d'une haftara, c'est de m'aider à comprendre. Et écoutez bien ce message très important que dit le Rabbi. Le Rabbi dit dans une fête, il y a deux choses. Ça va peut-être un peu vous choquer ce que je vais vous dire, mais Dans une fête, il y a deux choses. Il y a les halakhot de la fête et il y a le message de la fête. Et très souvent, les gens se perdent dans les halakhot. C'est-à-dire, quand tu lui dis, pour, c'est quoi Rosh Hashanah, il dit, ah, que j'ai appris les halakhot. J'ai appris qu'on doit dire Amelech HaKadosh, pas Akel HaKadosh, qu'on doit rajouter ci, on doit rajouter ça, on va manger ci, on va manger ça. Je dis, bon, ça c'est les halakhot de la fête, c'est la structure de la fête. Mais au-delà de ça, il y a le message de la fête. Et parfois, on passe à côté. C'est très important ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que parfois, par exemple, je donne un exemple, on arrivera bientôt à Kippour aussi. Kippour, il y a de l'alakhot. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de relation, ça c'est l'alakhot. Mais quel est le message de la fête? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est la même façon. L'haftara de Rosh Hashanah va pas m'apprendre des halakhot. On connaît l'halakhot de Rosh Hashanah. On sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit venir à la synagogue, on sait qu'on doit prier, on sait qu'on doit manger ci, on sait qu'on doit manger ça, on sait qu'on a un seder, on sait qu'on a une feuille de miel, on sait tout. On sait qu'on écoute le shofar, on sait ça. L'haftara ne vient pas pour t'apprendre ça. L'haftara, elle vient pour t'amener, et tel qu'on va le développer aujourd'hui, un nouveau regard. Une nouvelle façon de voir Rosh Hashanah. Un angle que tu n'avais pas vu. Sinon, ça ne sert à rien. Si l'Aftara ne m'apprend rien, c'est juste une belle histoire, on a mieux faire à Rosh Hashanah, que d'écouter des belles histoires. On n'a pas de temps à perdre à Rosh Hashanah. Toute l'année, on n'a pas de temps à perdre, encore moins à Rosh Hashanah. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans la suite du cours, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'Aftara de Chana nous apporte à Rosh Hashanah. Quel est le message? Le message de l'Aftara de Chana, quel message, d'accord, cette histoire a à nous apporter? Alors, comme chez les Juifs, vous savez comment ça fonctionne chez les Juifs? Pour répondre à une question, on répond par d'autres questions. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, pour essayer de comprendre et de disséquer cette histoire de Chana, de comprendre qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie de tous les jours, on va la décomposer. On va prendre cette histoire et on va montrer qu'a priori, elle a ni tête ni queue. Elle tient pas la route. Et c'est en montrant qu'a priori, l'histoire ne tient pas la route, qu'on va démontrer qu'en vérité, derrière cette histoire, il y a un message beaucoup plus profond qui en a l'air, qui se cache. C'est-à-dire, nous, quand on a une histoire, on a l'impression que bon, il croyait qu'il était saoul, il était pas saoul, il a donné une bénédiction, il a eu des vents, happy end, mazal tov. Ah, très bien. Bon. Il croyait qu'elle était saoul, elle était pas saoul. Bon. Il croyait. Et en fait, elle était pas. D'accord. Bon, très bien. Too bad. Ok? Ouais. Hein? Tant pis, hein?
Le cours est fini.
Vous voyez quoi?
Le cours est fini.
Le cours est fini. D'accord. Seulement, on va poser 3 questions sur cette histoire. 3 questions. On aurait pu en poser plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de questions à poser sur cette histoire. Là, je vous ai amené que 4 lignes de l'Aftara. En vérité, c'est une Aftara qui fait une trentaine de lignes, donc il y a de quoi faire. Mais on a amené 4 lignes, et juste avec ces 4 lignes déjà, ça nous pose 3 questions, qu'on va poser dans la référence numéro 2. 3 questions. 3 questions générales sur l'histoire, qui vont nous aider à comprendre et à disséquer cette histoire. D'abord, une première question que je suis étonné que M. Benetta n'ait pas posée. Aleph, premièrement. Ketzad Itachen, comment c'est possible? Sheta Eli Akohen Taout Shekazo. Comment Eli le Cohen a pu faire une telle erreur? Mina Katsé et la Katsé, d'un extrême à l'autre. J'explique. Eli n'était pas n'importe qui. C'était le Cohen Gadol. Ce jour-là, il avait été nommé juge. Et vous savez, hein, le rôle d'un juge, c'est pas seulement de lire les lois, c'est de comprendre les lois. C'est-à-dire qu'un juge est une personne qui n'a pas seulement une bonne mémoire. En tout cas, dans la Torah, un juge est une personne qui a une vision très très longue. C'est-à-dire, quand on lui présente un dossier, il est capable de ne pas s'arrêter à ce qu'on lui présente, il est capable de voir très très loin. C'est le rôle d'un juge. Le jour où l'histoire s'est passée avec Rana, Eli venait d'être nommé le chef des juges. Donc c'est pas n'importe qui. S'il est promis à ce poste, c'est que certainement il a un historique, certainement il a une expérience. D'accord? D'autant plus que Eli était la deuxième ou troisième génération depuis Moïse. Ça veut dire, depuis Moïse, de père en fils, ils étaient tous dirigeants d'Israël. Donc c'est pas, il est pas né d'être un appui. Son père était un géant, son grand-père était un géant, ou son arrière-grand-père, si on dit que c'est Moïse. D'accord? Et en plus, je vais vous dire plus que ça. Eli, il a reçu l'enseignement de la Torah directement de Pinhas et des anciens qu'il avait appris eux-mêmes de Moshe Rabbeinu. Donc c'est une très grosse pointure. C'est pas un rigolo. C'est pas un, je croyais tes zoom, etc. C'est pas un rigolo. C'est quelqu'un de très sérieux. Donc évidemment. Donc là, il y a une question très simple qui se pose. Comment Eli a pu faire une erreur aussi grave de penser qu'une femme qui était en train de prier était soumise. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous voyez, mais dans l'histoire, on passe d'une extrême à l'autre. Ça veut dire, au début de l'histoire, on croit qu'on a affaire à une femme qui est saoule, qui est rentrée dans le temple, ce qui est extrêmement grave. On sait ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron, d'Aviou, entrés en état d'ébriété, on sait comment c'est grave. Et à la fin de l'histoire, on se retrouve avec une femme qui non seulement n'a pas fait une faute, mais au contraire, elle a fait une mitzvah extraordinaire, et elle va nous apprendre comment prier. Et Élie, il a rien vu. Ça veut dire qu'Élie, il a vu moins 100, et après on arrive plus 100. Comment une personne qui a un poste comme ça peut se tromper? Donc il est évident que l'histoire n'est pas si simple qu'elle en a l'air. C'est pas juste qu'il croyait qu'elle était saoule, elle était pas saoule. Non, il y a autre chose. C'est pas possible. On peut pas faire une erreur comme ça. Quelqu'un de l'envergure d'Élie, moi je peux faire une erreur comme ça. Parce que je suis quelqu'un de simple. Mais quelqu'un de l'envergure d'Élie, qui est Cohen Gadol, qui est chef des juges, qui a appris de Moïse, enfin de Pinchas, de Moïse, etc., qui est un géant, il ne peut pas faire une erreur. Ça veut dire que là, ce n'est pas juste une marge d'erreur. Là, c'est carrément, il a jugé. Il a dit, madame, vous êtes saoule. Il a jugé. Alors qu'elle n'était pas saoule. D'abord, j'ai une question à vous poser. Il y en a qui est saoule. Elle sentait pas l'alcool, parce qu'elle a pas bu.
Oui, peut-être qu'il s'est pas approché. Il a vu ça de loin.
Ah oui, d'accord. Donc, de loin, d'accord. Donc, il prend pour une saoule.
Parce qu'elle est en train de prier d'une façon tout à fait.
Donc quand quelqu'un fait les choses pas exactement comme vous, déjà il est saoul.
Non, pas comme moi. Hein? Comme le tout le kahal.
Non, mais attendez, mais ça veut
tout
dire.
Tout le monde.
Bon, quelqu'un, chacun a sa façon de parler à Dieu.
Vraiment. Une normalité ou pas.
Une normalité ou pas.
Et alors, à ce moment-là, c'était la pagaille.
Elle avait pas.
Tout le monde.
Non, a priori, il y avait très peu de personnes dans le temple à ce moment-là. C'était pas. Non.
Mais s'il priait à haute voix, donc c'était la pagaille.
Oui, mais voilà, encore une fois.
Donc c'est le premier cas de figure de quelqu'un qui prie en silence.
C'est vrai. D'abord, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas.
Ouais, puis,
non, mais en tout cas, observable à ce moment-là.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas rester au sens littéral de dire qu'Élie croyait qu'elle était saoule, elle n'est pas saoule.
Ça ne veut pas dire qu'il faut se fier aux apparences.
Il faut chercher autre chose. Certainement qu'il y a quelque part, et vous allez voir, on va expliquer dans le studio du cours, il y a quelque part un débat idéologique, d'accord, qui est en train de se passer entre Élie et Hana. C'est pas juste elle était saoule, elle était pas saoule, c'est bêtise. D'accord. Comment doit-on prier? Vous allez voir, ça on va décortiquer. Oui, c'est-à-dire que quoi? On va développer. Mais ça veut dire que déjà ce que je veux prouver, c'est qu'on peut, avec la première question, c'est qu'on ne peut pas dire, que c'est juste une question ébriété ou pas ébriété. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui se cache derrière.
Mais ce que je veux dire, c'est si Hana elle a prié avec cœur, tellement elle a prié avec cœur qu'elle était complètement ailleurs. Lui, il prie pas avec cœur, Élie.
Je sais pas. Donc, ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'on peut pas dire que Élie, qui est le Cohen Gadol et qui est le chef des juges, pensait qu'elle était saoule, au sens littéral. C'est pas possible.
Oui, mais
ok, on va développer.
On pourrait dire que le Cohen Gadol, il avait pas besoin de rentrer dans l'intimité de
non, mais
c'est, elle avait besoin.
Non, mais c'est pas. Non, attendez. Je comprends.
Cette intimité vraiment.
Mais ça, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat.
C'est le système qu'elle a mis en place.
Est-ce qu'Élie pensait que cette femme était saoule? La réponse est clairement non.
Mais
sûr que non. Mais sûr que non.
Qu'elle a mis en place, elle pouvait faire.
Il sait ce que c'est quelqu'un de saoule. Non, c'est pas ça.
Il l'a fait réagir.
On va. Ah non, c'est pas. Ça marche pas comme ça. On prêche pas le faux pour avoir le vrai.
Non.
Ah oui. On dit pas à une madame, elle a cuvé votre vin. C'est très dégradant.
Je pense qu'à l'époque, ils avaient plus l'habitude de prier à haute voix.
Imaginez que vous. Non, mais attendez, excusez-moi. Mettez-vous dans la peau de Élie. Imaginez que vous êtes le Cohen Gadol. Vous voyez quelqu'un qui ne prie pas comme vous avez l'habitude de prier.
Étonné,
je veux bien être étonné. Mais tu ne traites pas de sous-là.
C'est beaucoup.
Va cuver ton vin. Quel rapport le vin maintenant? Première question. Deuxième question, une question très simple. Madoua me soupar al karba Torah. Pourquoi la Torah nous le raconte? Si tu dis que Élie a fait une erreur, pourquoi la Torah nous raconte cette erreur? Alors, filou bignout bematmead lo divar akatou. Vous savez que la Torah ne raconte jamais un épisode négatif s'il n'y a pas d'enseignement. Donc là, pourquoi j'ai besoin de savoir que Élie a fait une erreur? Si tu dis que c'est juste une erreur bête, comme on aurait pu penser, qu'il croyait qu'elle était saoule alors qu'elle n'était pas saoule du tout et qu'il s'est fait avoir, t'as là les poupettes. Non, bah, du tout, mais ça la Torah ne raconte pas. D'accord? La Torah ne raconte pas d'histoire comme ça. La Torah, même parler d'un animal qui est, même dire un animal d'un animal quelque chose de pas bien, on dit pas.
On
parle pas.
On a un exemple dans la Torah où les deux fils de.
Tous les épisodes que la Torah raconte, c'est les épisodes desquels on peut tirer un enseignement. Sinon, la Torah ne raconte pas.
Il semble que Adam et
Avira, oui, encore une fois, eux ils étaient ivres. Ah, eux ils étaient ivres. Mais ça veut dire que chaque fois que la Torah raconte quelque chose, c'est qu'il y a un enseignement. Donc on peut pas dire que si Stam la Torah nous raconte qu'elle s'est trompée. Et surtout, une question très simple. Ça c'est une question de chasse. Troisième question, je l'ai fait à l'oral. Rappelez-vous l'histoire. On a dit que Eli a patienté, il n'a pas arrêté la Hana dans cette fille-là. Si tu me dis qu'il pensait qu'elle était saoule, pourquoi il a pas arrêté? Imaginez que vous êtes au Beth Amigdal, vous êtes le Kohen Gadol. Et vous voyez quelqu'un qui rentre et vous êtes persuadé qu'il est saoul. Et qu'on n'a pas le droit de rentrer un seul instant en état d'ébriété. Et il est en train de prier. Qu'est-ce que vous faites? Immédiatement, tu dis, monsieur, dehors! Mais Eli n'a pas fait ça. Il a attendu la fin. Ce qui est contraire à la halakha s'il pensait qu'elle était saoule. Parce que c'est interdit. Donc tout ça, qu'est-ce que je vais vous prouver avec ça? Ce que je vais vous prouver avec ça, c'est qu'il est évident, comme on va le démontrer, comme on l'a démontré déjà partiellement, que Ali ne pensait pas, ne trouvait pas que Hana était ivre au sens littéral du terme, mais plutôt, on parle d'une autre sorte d'ivresse.
En transe?
Ok, on va voir. Très bien, alors on va voir. La réponse. L'écoute à Sirot. Et ça, c'est que le début de la réponse, parce qu'il faut développer. Vous allez voir que c'est un début de réponse, mais qui va nous créer d'autres questions. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis à la deuxième partie de la référence numéro 2. Mouchach, des trois questions qu'on a citées, on peut en déduire. Chez Eli, Locha Chaval et Shikora Bemouvan Apachout. Eli ne l'a pas considéré ivre au sens littéral. Évidemment. Et là, le Shikora Benyan Atfila. Eli l'a considéré ivre de prière. Ça veut dire quoi, ivre de prière? Qu'est-ce que ça veut dire, ivre de prière? On peut se saouler d'une prière? Tfila yetera minamida. Eli considérait que Hana faisait une prière plus qu'il n'en fallait. She'ina davar ratsui, chose qui n'est pas souhaitable, Besha she'omed ha'adam, lorsqu'un homme se tient, ou une femme, enfin, lorsque l'être humain se tient, lifne Hashem, devant Dieu, bevet Hashem, dans la maison de Dieu. Ça veut dire que, la Gemara explique ça aussi d'ailleurs, que une personne qui prie outre mesure, ça veut dire qu'il est là, par exemple, en train de faire une prière, et tout de suite il dit, je veux voir comment la prière s'est réalisée, je veux voir tout de suite, etc. Ça veut dire qu'il fait outre mesure, il en fait trop. On dit celui-là, sofo sheba lideke evlev, dit la Gemara, il finira par avoir mal au cœur. Ça veut dire que on peut pas se rendre fou dans une prière. Une prière, c'est une prière. Toi, tu fais la prière. Après, est-ce que la prière va être exaucée? Oui ou non? Quand elle va être exaucée? Comment elle va être exaucée? Laisse Dieu travailler. Très important, ça. Et donc, on a un début de réponse qui dit que Eli trouvait que cette femme était ivre de prière. Ça veut dire que Eli avait l'habitude, les gens venaient au Beth Amikdash, au temple, ils faisaient leur prière, courte, concise, d'accord? Mais dans laquelle ils disaient tout ce qu'ils avaient besoin, ils faisaient leur prière, ils repartaient. Et là, il avait affaire à une femme qui était en transe dans sa prière. Ça veut dire qu'elle était... Il avait l'impression qu'elle en faisait trop. Donc, c'est pour ça que Eli, par respect, par pudeur pour cette femme, il ne lui dit pas, madame, arrêtez, parce qu'elle ne commet aucune infraction. Elle n'est pas saoule. Elle n'est pas ivre. Si elle était ivre, littéralement, il l'aurait arrêtée. Mais elle n'est pas ivre. Il trouve qu'il y a une incohérence et qu'il y a une façon de se comporter qui n'est pas adéquate au Beth Amikdash. Dans le Mishkan, dans le sanctuaire de Dieu, c'est pas comme ça qu'on prie. On prie pas avec la transe, on prie avec la tenue. Donc c'est pour ça que, mais par respect pour elle, et quand il prie, tu l'arrêtes pas. Tu penses qu'il prie pas comme il faudrait, bon, ok. Tu laisses terminer, et après tu lui fais la remarque. C'est ça la remarque qu'Eli a fait. Eli a fait la remarque à Hana.
Il l'a laissé terminer.
Il l'a laissé terminer, poliment, parce qu'elle prie, elle fait rien de mal. Mais il trouve que la forme, donc le fond est bon, mais la forme n'est pas bonne. La forme n'est pas bonne. Il y a une forme de trop d'ivresse, d'accord. Il n'y a pas de tenue. Donc Eli lui fait la remarque. Il lui dit, madame, d'accord, il faut cuver votre vin. Ça veut dire il faut arrêter d'être comme ça. Il faut cuver votre vin. Ça veut dire ayez plus de secondes, ayez plus de tenue, On est ici au Beth Amikdash. Chez vous, faites ce que vous voulez, mais ici vous êtes dans la maison de Dieu, d'accord, devant Dieu. C'est pas comme ça qu'on parle pas comme ça à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que répond Hana? Et là, ce que je vous dis, c'est un débat idéologique qu'on va développer. Qu'est-ce que répond Hana? Hana, elle est en train de répondre, elle lui répond à Eli, elle lui dit, mais pas du tout. Je ne suis pas ivre de prière. Je ne fais que déverser mon âme devant Dieu. Ça veut dire que Hana est en train de dire, je ne suis pas en train de faire une prière outre mesure. Je suis pas en train de trop en faire. Je suis simplement en train de déverser mon âme devant Akadosh Baruch Hu. Le terme déverser son âme était un terme qui était inconnu. Jamais on n'avait entendu parler comme ça. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on savait qu'une prière, c'est un moment dans lequel on demande, fait une liste de demandes à Dieu. Demain, je veux ci, je veux ci, je veux ci, je veux ça. Maintenant, Hana, et justement, c'est pour ça que Eli croyait que Hana, elle était là en train de faire une demande, c'est-à-dire, je veux ci, je veux des enfants, je veux des enfants, et il avait offert avec beaucoup d'extravagance et beaucoup de drame, d'accord? Donc, silencieux, mais du drame. Donc, Eli trouve que ça ne se fait pas. Hana répond, elle dit, mais pas du tout. Je ne suis pas en train de faire du drame. Je ne suis pas en train de demander des enfants. Je suis en train de dépenser mon âme devant, de déverser mon âme devant Dieu. Ça veut dire, je suis même pas en train de faire une liste de demandes. C'est pas que je fais une liste de demandes comme j'ai une shopping list et je dis je veux ci, je veux ça. Je suis en train de parler à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un, il est là, il vous déverse son âme. Il vous parle. Est-ce que ça veut dire qu'il pense forcément que vous allez régler son problème? Par exemple, vous rentrez chez vous à la maison, votre femme vous parle. Ah, oh, tu sais pas quelle journée j'ai eu aujourd'hui, etc. Bon, toi, en tant que mari, t'écoutes, etc. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Pourquoi elle me raconte ça? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi elle me raconte ça? Elle n'est pas en train de te faire une liste de demandes. Elle n'est pas en train de te demander de régler ses problèmes. Elle est en train de te déverser son âme. Elle te raconte. Elle a besoin de parler. Et c'est ce que dit Hana. Hana dit, je ne suis pas en train de demander des choses à Dieu. Je suis simplement en train de déverser mon âme devant Dieu. Mon âme souffre, je ne vais pas bien, et je déverse mon âme devant un Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je parle comme ça à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que là, si vous voulez, on a un débat idéologique qu'on va retrouver tout de suite à Rosh Hashanah, entre Eli et Hana sur la teneur d'une prière. Qu'est-ce qu'une prière? Est-ce qu'une prière, c'est un moment dans lequel on fait une liste de demandes à Dieu? Je veux ci, je veux ci, je veux ci, je veux ça. Ou est-ce qu'une prière, c'est un moment dans lequel je parle à Dieu? Peu importe, je demande pas, je parle.
C'est les deux.
C'est très compliqué de dire c'est les deux, parce que vous allez voir que on va expliquer dans la suite du cours qu'a priori, ces deux notions sont contradictoires. Donc on a un vrai débat idéologique ici. Et à la fin, c'est Hana qui aura raison, évidemment.
Mais avec le cœur.
On va voir, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça veut dire que Eli lui dit, madame, vous en faites trop pour vos demandes. Hana dit, mais je suis pas en train de faire les demandes. Je suis en train de déverser mon âme devant Dieu. Je suis en train de dépencher mon cœur devant Dieu.
C'est la finalité d'accord. De la prière, en fait.
Oui, mais ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire que Hana est en train de dire, mais je suis pas en train de. Je suis pas en train de demander. Je fais pas de demande.
Elle a fait de demande.
D'accord.
Non,
justement, elle fait pas de demande.
Tu as dit que ouais, mais enfin, si j'ai un enfant, cet enfant, je vais
contrôler. Non, c'est une erreur qu'on fait en tant qu'homme d'ailleurs. Mm-hmm. C'est que chaque fois qu'on entend quelqu'un parler, on croit qu'il nous fait une demande. Il te fait pas une demande. Tu racontes ce qui se passe.
Même si elle a pas demandé pour l'enfant, hein? Sa présence même au Big Dash et sa présence même et la manière dont elle fait la prière, etc.
Elle parle à Dieu. Elle raconte à Dieu qu'elle souffre.
Qu'on la prenne pour quelqu'un qui est sourd, etc. Donc elle est bienvenue demander faire
une demande. Non, pas du tout. C'est une erreur. À aucun moment le texte dit qu'elle demande. Elle n'est pas en train de demander à Dieu.
Elle demande.
Elle parle à Dieu.
Oui, oui.
Elle dit, voilà, mon cœur souffre, je parle. Est-ce que je parle parce que je pense que Dieu va me régler mon problème maintenant? Je ne sais rien.
Mais si. Peut-être. Derrière le mot souffre, je souffre de ne pas avoir d'enfant.
Très bien.
C'est ça.
Mais est-ce que ça veut dire que maintenant je fais une prière dans le sens, je prie Dieu de me régler le problème envoyé des enfants? Est-ce que ça veut dire que j'espère qu'en sortant du temple, je vais être enceinte? Non.
Qu'elle se confie là.
C'est pas qu'elle se confie. Non. Elle épanche son cœur.
Quoi? Mais elle a. Bon Dieu, c'est pas ce qu'il a dans le cœur.
Je suis bien sûr qu'il sait. Mais elle a besoin de parler. Elle parle.
Il y a des gens qui te disent ça me fait du bien. Ça me fait du bien.
Quoi? Non, c'est une erreur. Pas du tout.
En fait, Dieu là, c'est son.
C'est son psy, si tu veux, oui, quelque part. Oui, oui, exactement. C'est un peu ça. Elle est en train de déverser. C'est le terme qu'elle emploie d'ailleurs. Elle dit je déverse mon âme. C'est-à-dire qu'elle a un trop plein et elle déverse. D'accord. Ah oui. Alors, donc ça veut dire, encore une fois, nous avons ici une vraie question. Une vraie question, c'est... Qu'est-ce qu'une prière? Qu'est-ce qu'une prière?
C'est une demande.
Est-ce qu'une prière, c'est une demande? Un moment dans lequel on fait une liste de demandes? Ou est-ce qu'une prière, c'est un moment dans lequel je parle à Dieu? Peu importe ce que je lui raconte, c'est con si je lui parle. Je peux lui raconter ma vie, je peux lui raconter le dernier CD que j'ai écouté, peu importe, je lui parle.
Exactement, c'est ça.
D'accord. C'est ce que Hana lui dit. Hana dit, je suis pas en train de demander. Parce qu'effectivement, si je demande à quelqu'un, ça fait lourd. Tu dis, je t'en prie, donne-moi. Il dit, écoute, t'as demandé, c'est bon. On t'a entendu. Il veut te donner, il te donne. Il veut pas te donner, il te donnera pas. C'est pas parce que tu vas faire du drame qu'on va te donner. C'est pas comme ça qu'on parle à Dieu. Mais si tu dis que c'est pas, elle est pas en train de faire du drame, elle est pas en train de demander, elle est en train de parler. Il y a des gens qui arrivent à parler en une phrase, il y a des gens, il leur faut 15 phrases. Et le cœur, il sort comme il sort.
Merci.
D'accord? Est-ce que mon cœur s'exprime comme ton cœur? Non, c'est pas la même chose.
Il y a un truc qui est bizarre. Ce que tu dis, c'est bien, si c'est, si tu parles à une personne qui est au courant de rien de toi.
Oui.
Qui est complètement enfermée à toi.
Oui.
Or là, elle va au Beth Amidash, elle s'adresse à...
Ali.
À Kadosh
Baruch. Oui, d'accord, oui.
Mais oui. Kadosh Baruch, non seulement il sait, mais il sait, il est à l'origine de ce qu'elle est.
Évidemment. Mais encore une fois, quand je parle, quand elle parle à Dieu, elle parle pas à Dieu pour lui raconter quelque chose.
Non, elle est en train de lui dire, regarde, qu'est-ce que je fais.
Non, pas du tout. Elle lui parle parce qu'elle a besoin de parler. Tu comprends? Elle est pas en train de lui parler pour lui dire, Dieu, tu m'as pas vu, regarde, je suis là.
Elle se plaint pas.
Elle est même pas en train de se plaindre. Elle est en train de déverser, elle est en train d'épancher son âme devant Dieu.
Elle cherche à mieux. Mais en filigrane, il y a la
requête. Je pense que ça, c'est une notion que tant qu'on n'est pas marié, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Non, mais
c'est bien ça, parce que pour une femme, pour une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est une sacrée manière d'accoucher. Hein. Elle a accouché de...
Elle n'a pas demandé. Bon,
tu dis là, okay. Je lui disais.
Donc, encore une fois. Oui.
C'est une façon de détourner de...
C'est mot,
hein. Nous-mêmes dans
cette... Oui,
oui.
Oui, il a dit...
On peut parler à
une femme qui se vit, c'est une femme qui accouche, forcément.
Bien sûr. Bien sûr.
Vas-y, le pire verre, il est là.
C'est ce qu'elle fait. Mais Aélie, c'était pas la vision qu'elle a fait une prière. Il faut qu'on avance un petit peu, sinon on n'aura pas terminé. Donc, on avance. Donc, apparemment, Aélie et Hana n'ont pas la même approche de la prière. Élie a une approche beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus carrée, beaucoup plus structurée. D'accord? C'est-à-dire, il y a un texte, tu le lis, tu voilà, conventionnel, d'accord? Alors que Hana dit, je parle à Dieu. Je parle. Aujourd'hui, je parle comme ça, demain, je parle comme ça, je parle à Dieu! Je suis en train de déverser mon âme devant un Kadosh Baruch Hu. Alors, pour comprendre ça, Rabotai, pour comprendre ça, ce dialogue, on va comprendre un paradoxe qu'il y a, a priori, donc ce dialogue et cette différence d'approche entre Eli et Hana va nous expliquer une différence d'approche aussi, un paradoxe carrément, dans le sens des prières de Rosh Hashanah. Regardez. En vérité, quand on analyse bien, on a ici dans la référence numéro 3, un petit 1 et un petit 2, Aleph et Bet. Et vous allez voir que le petit 1 et le petit 2 vont exprimer deux notions, deux états d'esprit complètement différents, voire contradictoires, qu'on attend de nous dans les prières de Rosh Hashanah. D'accord? On va essayer d'analyser ensemble qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Et vous allez voir que ce qu'on fait à Rosh Hashanah, a priori, il y a deux messages contradictoires. Pratiquement contradictoires. On y va. Le premier message de Rosh Hashanah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Aleph. Rosh Hashanah, non, là c'est Kippour. Rosh Hashanah, ou Yom Adin Al Kol Tzorkei Adam. Au sens littéral, Rosh Hashanah est le jour du jugement dans lequel on est jugé pour tout ce qui concerne l'homme. On est jugé spirituellement pour savoir ce qui va nous arriver spirituellement. Et on est jugé évidemment aussi matériellement. Tout ce qui nous arrive dans l'année. Velachen, c'est pour cela. Mais Vakshim bit filod Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle, dans les prières de Rosh Hashanah, on prie, on demande, Bané, Chaye ou Maisonné. On demande à Kadosh Baruch Hu, les enfants, la santé, la Parnassa. On demande à Dieu aussi la réussite. Donc tout ce qui a trait à la spiritualité, on demande à Dieu de réussir dans notre étude, de réussir dans nos prières. On demande. Puisqu'on sait que Rosh Hashanah, c'est le jour où on est jugé, et que tout est décidé comment je vais aller matériellement et spirituellement au cours de l'année 5078. Donc, Rosh Hashanah, je suis jugé, donc je demande. Et d'ailleurs, il est écrit, regardez, dans le psaume 81, le psaume qu'on va lire avant de sonner le shofar. Il est écrit Tikou Bachodesh Shofar. Sonnez le shofar au premier du mois.
Bachodesh.
D'accord? Pourquoi vous sonnez le shofar? Qui rock les Israël ou? Car c'est une loi en Israël. Mishpat, l'éloqué Yaakov. C'est une coutume en l'honneur du Dieu de Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit d'ici qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit comme ça. Il te dit rock les Israël ou Mishpat, l'éloqué Yaakov. Il y a la loi. C'est-à-dire, d'abord, on te parle des lois. Et après, on te parle du jugement de Dieu de Jacob. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qui arrive dans la vie d'un juif, tout ce qui va arriver à Israël et tout ce qui a trait à la spiritualité, tout est décidé à Rosh Hashanah. Très bien. Donc évidemment, si on voit ça comme et ça.
Même la spiritualité.
Deux secondes. Je développe. Si vous juste me laissez finir la référence numéro 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Et donc, comme je sais que je suis jugé, donc je demande. je demande. Je demande à Dieu, je lui dis, je te demande de me donner une bonne année matérielle et spirituelle, spirituelle et matérielle. D'accord? Et en vérité, on demande d'abord le matériel, après le spirituel. Parce que faut d'abord le matériel qui sont en bonne santé, et après le spirituel. Mais je demande. Très bien. Ça, c'est Rosh Hashanah. Alors que d'un autre côté, Rosh Hashanah exprime un autre message qui est contradictoire. On va passer aux petits bêtes. Nekudat ha'avoda de Rosh Hashanah, l'aspect essentiel du service de Dieu à Rosh Hashanah, chez Ikara Bitfila, qui s'exprime surtout dans la prière, hu achtarat ha'kadosh baruch hu le'melech. À Rosh Hashanah, le point principal et essentiel de Rosh Hashanah, c'est qu'en Rosh Hashanah, nous allons couronner ha'kadosh baruch hu en tant que roi. Anasat dafka, maintenant, comment tu couronnes le roi? Pour couronner le roi, il faut t'annuler entièrement devant le roi. T'effacer entièrement devant le roi.
Donc tu n'en es pas.
Keshe Adam Meshabed Atzmo le Gamre le Melech, c'est lorsqu'un homme va s'effacer complètement devant le roi, et il va s'asservir entièrement à lui, Acheino Hashklal Birsonotav Apratim, au point de ne plus ressentir sa propre volonté. Parce que, faut comprendre, c'est pas un président qu'on nomme ici. C'est pas un président. C'est pas un PDG qu'on nomme ici. C'est pas un premier ministre. On nomme ici un roi. Un roi, ça veut dire que, quand je couronne un roi, ça veut dire, je dis, je m'efface entièrement devant lui. Et d'ailleurs, dit la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, juste en dessous, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Imru lefanai b'Rosh Hashanah Malchuyot, dites devant moi, à Rosh Hashanah, des textes évoquant la royauté, Kedesh et Amlichu ne'alechem, afin que vous me fassiez régner sur vous. Il faut savoir que ça, c'est un élément essentiel de Rosh Hashanah. Je voudrais m'arrêter un petit peu dessus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. Non, c'est pas le cas. D'accord. Non, c'est pas le cas. Parce que non, ça n'a rien à voir. Nouvel an, c'est peut-être techniquement le nouvel an, mais c'est pas le nouvel an.
C'est pas le principal.
C'est pas comme le nouvel an 1er janvier ou premier nouvel an chinois ou nouvel an, etc. Ça n'a rien à voir.
Pourtant, on l'appelle Rosh Hashanah.
D'accord. Oui, c'est le début de l'année, la tête de l'année.
Oui.
Très bien. Rosh Hashanah. Le message principal de Rosh Hashanah, c'est que Rosh Hashanah est le jour dans lequel on va couronner HaKadosh Baruch Hu en tant que roi. Je couronne HaKadosh Baruch Hu en tant que roi. Ça veut dire quoi? À tel point que vous savez, c'est écrit dans le Zohar. Le Zohar, il dit que HaKadosh Baruch Hu arrête de régner sur le monde à l'entrée de Rosh Hashanah, mercredi soir. Il arrête de régner sur le monde. À tel point qu'il y a la question qui est posée, comment le monde tient?
Justement.
Et on dit que le monde tient avec les restes de l'énergie de l'année précédente. Et à quel moment Dieu décide de régner à nouveau sur le monde, le lendemain matin, lorsqu'on va sonner le chauffard, le son du chauffard et l'appel d'Israël dans lequel nous on demande à Dieu, on veut que tu règnes sur nous et sur le monde entier, et là Dieu accepte, et à partir de ce moment-là, il recommence l'année.
Ça
veut dire que le message principal de Rosh Hashanah, c'est que Rosh Hashanah, c'est un moment d'ailleurs qui s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. Ça veut dire que de la même façon que la tête a une influence sur tout le corps, Rosh Hashanah a une influence sur l'année en entière. C'est-à-dire, ce qui se passe à Rosh Hashanah, chaque seconde de Rosh Hashanah a un impact et une influence sur tout ce qui se passera pendant l'année. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on ne perd pas le temps, on ne passe pas le temps à dormir pendant la journée. À Rosh Hashanah, on lit un maximum de Tehillim et on supplie à Kadosh Baruch Hu, parce que chaque seconde de Rosh Hashanah, on est en train de faire le plein. Alors, ça nous pose un vrai problème. Pourquoi? Parce que, comme on va le développer dans la référence numéro 4, mais déjà, on vient de voir un peu de la référence numéro 3, a priori, ces deux notions sont complètement contradictoires. D'un côté, tu me dis que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, dans lequel je suis jugé, donc je vais demander que j'ai une bonne année. Donc c'est complètement ancré autour de moi. C'est égocentriste à la limite. On parle de moi, c'est je veux une bonne année. De l'autre côté, on te dit, écoute, le plus important, c'est que tu couronnes HaKadosh Baruch Hu en tant que roi. Donc c'est plus égocentriste. Le centre de gravité n'est plus moi. Que moi je suis jugé, que moi je vais recevoir une parnassa, que moi je vais avoir ci. Non. Là, le centre de gravité est Dieu. Je couronne Dieu et je dis que c'est Dieu, je m'annule entièrement devant toi. Donc ça nous pose un vrai problème. Parce que la question est la suivante. Où est le centre de gravité ici dans Rosh Hashanah? Est-ce que mon centre de gravité à Rosh Hashanah, c'est moi? C'est-à-dire ça tourne autour de moi? Que je suis jugé, donc je demande et je veux avoir? Ou est-ce que le centre de gravité, c'est Dieu? Ça veut dire, je le couronne, je le couronne, je le couronne, je le couronne. Et peu importe moi, ce qui compte, c'est que je l'ai couronné. Et il y a un vrai problème. On va tourner la page. Je vais vous montrer un Zohar qui est très dur. Et qui va rejoindre la question de Serge. Référence numéro 4. Alors, il va peut-être un peu vous choquer ce soir. Il dit comme ça. Elu amevakshim. Ceux qui demandent. Bayoma de Kippouré. Le jour de Kippour. Mezona, Slicha, Vechapara, Vechaye. Ceux qui demandent à Yom Kippour la prospérité, le pardon, l'expiation et la santé. Kod venu le chaim, inscris-nous pour la vie. Très bien, c'est ce qu'on fait tous, non?
Non, c'est sûr. D'accord. C'est
M qui clavim sont comparés à des chiens. Atsoakim qui aboie. Av, av, donne-moi, donne-moi. Les fiches rochvim à l'atzmam, car ils ne pensent qu'à eux. Vélo à la shrina et non à la présence divine. C'est les mots du Zohar. Enfin, traduire, c'est de l'araméen, traduire.
Mais c'est ainsi que le texte est rédigé.
Exactement. Oui, c'est ce qu'on fait.
C'est le deuxième point.
Exactement. Pourtant, Meïdar Gissa, c'est la question que pose le Rabbi, votre question. Meïdar Gissa, dans l'écouté Sirot. Pourtant, Bakashot Elou, ces demandes, Nitkenu Benusach Chazal, Benusach Hatfila, ont été inscrits dans le rituel de la prière à l'idée Chazal. Par nos sages. C'est pas moi qui ai fait le texte. On m'a donné un texte, on m'a dit lis-le. Et dans le texte, on dit Avinu Malkeinu Shehar, et parna asa ata tel temps. Amen. C'est pas moi qui ai fait le texte.
Amen.
Ou biarou, et en plus les sages nous ont expliqué que pourquoi on a fait ce texte, chez Az, ouet, aratson, eminu et bakashot, que là, c'est un moment propice pour obtenir la réalisation de nos requêtes, etc. Ou misemouvan. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu me dis que tu me fais un texte dans lequel tu me parles de Parnassa. À quoi tu veux que je pense quand je lis Parnassa? Ben évidemment, je pense à la Parnassa. Dans ce texte, on parle de santé, on parle de tout ce que tu veux. À quoi tu veux que je pense? Tu m'en écris-moi. Quand on demande à Dieu, écris-moi pour la vie. À quoi tu penses? Qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Je pense à la Shrina? Non, je pense pas à la Shrina. Je pense à peut-être à des gens que j'ai connus cette année qui ont galéré eux, ou des galères que moi j'ai eues, d'accord? Et je me dis, je veux pas que ça arrive. Ou je veux que ça s'arrange. Alors, c'est de ça qu'on parle. C'est pas moi qui ai fait le texte, c'est les sages qui ont fait le texte. Et en plus, ils m'ont dit que c'est un moment propice pour changer les choses. Donc, umise mouvan, shebakashotelu, tserchlot, gambe, ofen, sheye, la adam, ratson, vergel, sera mouvokashim. Alors, qu'est-ce qu'il attend de moi? Tu penses vraiment que Dieu attend de moi que je lise un texte dans lequel on parle de moi et que je me sens détaché? Je dis, non, on parle pas de moi, on parle de Dieu, je n'ai la shrina. On parle de moi. C'est de nous qu'on parle. De quoi tu crois qu'on parle? Comment tu veux, est-ce que tu crois vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on se sente détaché du texte qu'on est en train de lire? Non, je pense pas. C'est pas le but. Il y a rien de mieux que vivre une prière. Donc là, on a un vrai problème. Parce que d'un côté, on a une prière qui ne fait qu'exprimer des besoins matériels. Et vous regardez toute la traduction de la tefila, du début jusqu'à la fin. Ça ne fait qu'exprimer des besoins matériels. Écris-nous dans les livres de la vie, le livre de la santé, la parnassa, le livre, etc. On parle que de nous. On parle que de nous. Que de nos besoins. Que de nos besoins. D'accord? Et dans le livre de la santé, dans les livres de la santé, et écarte nos ennemis de nous. On parle que de nous. Et pourtant, le Zohar, il vient comme ça, il te largue une bombe, il te dit, mais ceux qui sont en train de demander le jour de Kippour, la santé, la parnassa, le pardon d'être écrit, c'est comme des chiens qui aboient, donne-moi. Alors, je fais quoi, moi, alors? Alors, je ferme le livre, faites-moi un nouveau livre. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'en vérité, le paradoxe qu'on a est un paradoxe qui est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Vous comprenez? C'est un vrai problème qu'on a ici. Est-ce que le centre de gravité, c'est moi? Apparemment, le Zohar est dérangé par ça. Que le centre de gravité, c'est moi, je demande, je veux. Ou est-ce que le centre de gravité, c'est Dieu? Et ça peut pas être les deux en même temps, a priori. Parce que si c'est, parce que le centre de gravité, c'est moi, dans ce cas-là, je demande à Dieu, donne-moi, donc tout tourne autour de moi. Ou le centre de gravité, c'est Dieu, je dis, Dieu, moi, j'existe pas, moi, je fasse devant toi, ce qui compte, c'est que toi, tu vas bien, règne sur nous, c'est tout. On te couronne, on veut que ce soit notre roi, c'est tout ce qu'on demande. C'est nous qui allons couronner Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sens de Rosh Hashanah. Nous allons, chacun de nous va couronner Akadosh Baruch Hu. Chacun de nous. Personnellement. C'est pas le rabbin qui va couronner Hachem. Chacun de nous personnellement va couronner Hachem. Oui, mais le problème c'est quoi? Non, justement, c'est faux. Chacun de nous. Même le juif de Kippour, il va couronner Hachem. Il est là, il va couronner Hachem. Il est là, il a écouté le shofar, il couronne Hachem. Alors, je comprends pas. Alors, c'est quoi le but de Rosh Hashanah? Est-ce que le but de Rosh Hashanah, c'est de demander des demandes personnelles ou de couronner Hachem? Est-ce que le but, c'est moi ou le but, c'est Dieu? Voilà. Je l'ai mis un peu curu, mais c'est la question. C'est une vraie question.
Mais si j'ai pas moi...
Et la vérité, deux secondes, c'est qu'en vérité, c'est même logique quelque part, cette question. Parce que, regardez, tu es en train de couronner Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Quand tu couronnes quelqu'un en tant que roi, ça se fait pas de lui dire, je te couronne en tant que roi, mais attention, hein, moi j'ai besoin de la santé, la parnassa, etc. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Quand on couronne un roi, on lui dit, moi je te couronne en tant que roi, c'est terminé, basta. C'est pas juste, je te couronne en tant que roi, mais bon, j'ai besoin d'un appartement, hein. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Je te couronne en tant que roi, t'es le roi, c'est tout. Adkan, s'arrête là. C'est pas le moment de demander de mon personnel.
pour le couronner.
Ok, alors très bien, je comprends. Le problème, c'est qu'apparemment, Rosh Hashanah comporte deux messages qui sont contradictoires. À la limite, on aurait préféré avoir deux fêtes. Deux fêtes. Ou même deux jours, tu vois, deux jours Rosh Hashanah, on aurait pu dire par exemple. Un jour, tu me dis, je parle de Dieu, tu couronnes. Deuxième jour, tu dis, bon, maintenant, on va parler de moi. Mais là, Rosh Hashanah, on mélange les gens.
Ben, ça inverse le processus.
Mais on mélange complètement les gens. C'est-à-dire, d'un côté, on te dit, tu couronnes Dieu en tant que roi, c'est l'essentiel. Et de l'autre côté, on est là en train de demander, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais c'est qui l'essentiel ici? Ça tourne autour de qui? Autour de moi ou autour de lui?
Ça semble opposé, en fait.
Alors, comment ça n'est pas opposé? Il nous faut une formule pour prouver que ces deux notions qu'on a contradictoires, d'accord, ne sont pas contradictoires. Et non seulement qu'elles ne sont pas contradictoires, au contraire, elles sont complémentaires. Et je vais vous dire en vérité, c'est une question qu'on pourrait poser sur les prières de tous les jours. Mais elle est encore plus forte à Rosh Hashanah. Parce que bon, tous les jours, on va dire, Dieu est déjà couronné en tant que roi, donc bon, il est déjà couronné, donc je le demande, j'ai besoin. Mais là, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour même où tu es en train de couronner en tant que roi. Ça veut dire que Dieu dit, je ne suis plus ton roi. Et il dit, j'attends que tu viennes me demander d'être ton roi. Et toi, tu vas lui demander d'être le roi. Et alors, tu te dis, oui, mais j'ai besoin aussi de... C'est pas le moment. Mais c'est pas le moment. Maintenant, c'est le moment dans lequel tu dois t'effacer complètement. Et tu dois dire à Dieu, je t'accepte en tant que roi. Adkan, point barre. C'est pas le moment de demander de mon personnel. Pourtant, comme la question que vous avez tous posée, la question que pose le Ravi, c'est le texte de la prière. C'est pas moi qui a fait le texte de la prière. C'est le texte de la prière. Alors, comment ça marche?
Mais le fait de dire que nous, on va couronner Hachem, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que lui, il est le seul en état de...
Oui,
c'est la manipulation, ça.
Non, c'est pas la manipulation. Si. Parce qu'on l'a déjà reconnu une première fois par le passé.
Regarde,
avec tous les miracles qui nous a...
Monsieur Bergel, c'est pas compliqué. Regarde. Il y a, lorsqu'on fait une démarche, il y a un objectif. Après, on peut avoir de la manipulation. Ça veut dire, pour arriver à l'objectif, on peut faire passer ici, c'est ça. Mais ça veut dire que, quel est mon objectif quand je viens à Rosh Hashanah? Est-ce que mon objectif, c'est de raconter à Dieu qu'il est beau, qu'il est grand, pour qu'il me donne une bonne année? Ça, c'est mon objectif. Ou est-ce que mon objectif, c'est simplement de couronner à 4 jours en tant que roi, peu importe mon année? Ça peut pas être les deux en même temps. C'est ou l'un ou l'autre. Oui, mais là, Rosh Hashanah, c'est pire, parce que Rosh Hashanah, si vous voulez, on est en train de fixer les choses.
Il faut un interlocuteur.
Oui.
C'est-à-dire quand un peuple, dans le cadre d'un roi,
oui.
Quand le peuple va voter, parce qu'il vote pas.
Ah, on vote pas. Vous savez comment on couronne un roi? Comment on couronne un roi? Quand on couronne un roi, ça veut dire que le peuple, le peuple est en train de dire au roi, on s'efface complètement devant toi, et dorénavant, tout ce que tu diras, même si on n'est pas d'accord, on écoute, et tu as raison.
D'accord.
Ça veut dire que maintenant, en d'autres termes, c'est pas un président qu'on nomme, parce qu'en démocratie, c'est pour ça qu'on a un peu du mal à comprendre. Parce qu'en démocratie, en vérité, on nomme pas, c'est pas un roi qu'on nomme.
Non.
C'est quelqu'un qui représente le peuple.
Un roi, c'est du droit divin.
Mais un roi, le roi tel qu'on nomme à 4 jours en tant que roi, et tel qu'on l'a nommé à l'époque des rois, couronné des rois, un roi, c'est pas du tout ça. On nomme pas un représentant.
Mais le peuple,
on nomme quelqu'un devant lequel on s'efface complètement.
Mais il me semble, dans les royautés,
oui.
Je suis pas un spécialiste de... les royautés dans le monde, etc. Mais le peuple avait besoin d'un roi. Et quand le peuple avait des doléances, ils allaient voir qui? Ils n'allaient pas voir le bouffon ou le...
Vous avez raison.
Ils allaient voir le...
Je veux bien qu'on aille voir le roi. Je comprends.
Ils ont besoin d'interlocuteurs.
Je comprends. Je veux bien qu'on aille voir le roi une fois qu'on a nommé le roi, hein, que le roi est mis en place. D'accord.
Quand il n'y a pas de roi, il y a un flocon.
Je comprends ce que vous dites. Seulement, dans ce cas-là, voilà comment on aurait dû faire. D'abord, on aurait dû couronner 4 jours en tant que roi.
Ouais.
D'accord? Et ensuite, quelques jours plus tard, une fois qu'il est nommé en tant que roi, on dit bon, maintenant que tu es roi, on va te demander de ma personnelle. Mais venir le jour même dans lequel tu le couronnes. Tu lui dis, c'est un double message. Tu lui dis, je m'efface devant toi, mais j'ai besoin de ça.
Pour continuer.
Si je m'efface devant toi, c'est que j'ai aucune volonté. J'ai rien. C'est toi maintenant ma volonté. Ben oui.
Ouais, mais
alors, c'est qui ma volonté?
Que c'est déjà.
Est-ce que
Hudson, ça veut dire qu'on est devant sa volonté? Il va nous.
Alors pourquoi je demande de ma personnelle?
Et il va nous.
Ben, qui vous demande?
Qui va demander?
Quoi? Oui, mais je comprends. Mais ça veut dire. Ma question n'est pas est-ce que j'ai des besoins ou pas. Bien sûr, j'ai des besoins. Ma question est-ce que c'est le moment?
En fait,
a priori, Rosh Hashanah,
vous
savez, des fois, c'est comme, je vous donne un exemple qui est plus, évidemment, c'est pas à Kadosh Baruch Hu, mais c'est comme par exemple quand on va chez le rabbi, quand on va chez un tzaddik. Tu viens avec, tu sais ce que tu dois demander, mais des fois, t'arrives devant, t'es tellement ébloui de la kdusha, que tu sais même plus, ce que demander. Il y a plus de problème. Parce que t'es dans une autre dimension. Tu n'existes plus, tes problèmes n'existent plus. Tu comprends? Donc c'est ça après la question que tu dis. Ça veut dire que quand, avant de venir chez le tzaddik, tu disais ça tourne autour de moi, je vais aller demander. Mais quand tu arrives devant, tu t'effaces tellement que je sais même plus quelles sont nos problèmes. Et quelque part, c'est comme ça qu'on devrait être à Rosh Hashanah, a priori. Et c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar dit, celui qui demande, écris-moi pour la vie, donne-moi la parnassa, la santé, c'est comme un chien qui dit, donne-moi, donne-moi, il aboie, pourquoi il aboie le chien? Donne-moi, j'ai faim. Alors quand on est des chiens, comment ça fonctionne? Alors regardez la, comment le rabbi va répondre à la question avec beaucoup de brio. Référence numéro 5.
Avec qui?
Non, ça... Vous allez voir, hein?
Hein? Non, c'est une réplique dans un film.
Ah, alors. Alors, réponse numéro 5. Référence numéro 5, on a la réponse. Mais attention, c'est une réponse qui n'est pas simple à comprendre. Je préfère vous prévenir. Qui n'est pas facile à comprendre et pas facile à admettre. Il faut qu'on rentre en vérité dans les coulisses de notre âme. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un juif demande la parnassa à Dieu? Ou il demande la santé à Dieu? Pourquoi je demande la parnassa à Dieu?
C'est lui qui décide.
Attends, doucement.
Quelle est la finalité?
On va essayer d'analyser. Je demande à Dieu, je veux être en bonne santé. Pourquoi je veux être en bonne santé?
Pour le respecter, pour pouvoir faire les tfilot, les mitzvot. Si je n'ai pas la santé, je ne peux pas le faire.
Je demande à Kadosh Baruch Hu, j'ai une affaire, je veux qu'elle marche bien. Je veux gagner beaucoup d'argent.
Et pourquoi pas?
Bien sûr. Je vais ouvrir une deuxième boutique, une troisième, une quatrième. D'accord? Pourquoi je demande ça? Alors, la vérité, c'est que si on le note avec nous-mêmes, je pense pas à Dieu quand je fais ça. D'accord, pas du tout. Je pense à moi. Je veux m'élargir. Je veux agrandir mon patrimoine. Oui, c'est pas à Dieu que je pense. Écoutez maintenant la réponse du rabbi. Mais il faut qu'on développe. Je suis conscient que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite. Ça prend du temps. Faut la référence 5 et 6. Okay. Référence numéro 5. Kacher Adam Israël me vakesh etzracha de Rosh Hashanah. Lorsqu'un juif sollicite à Rosh Hashanah, la satisfaction de ses besoins personnels. En fait, demander mes besoins personnels, c'est un prolongement, c'est une suite logique du fait que je couronne à Kadosh Baruch Hu. Quel rapport? Au contraire, c'est contradictoire, on a dit. Tu couronnes Dieu, quel rapport maintenant mes besoins personnels? Non, pas du tout. Chez Bechol, la Olam, Tirae, Vetit Galé, Malchuto, chez la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je viens de dire à Kadosh Baruch Hu? Je dis à Kadosh Baruch Hu, je te couronne en tant que roi. Et je veux que tu règnes sur le monde entier. Je veux que tu règnes Dieu sur le monde entier. Très bien. Maintenant, je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute. Bon, certainement que tu as décidé beaucoup de choses. Je sais pas si tu as décidé pour moi cette année. Moi, je sais une chose. Je sais que j'habite dans un monde. Et que dans ce monde, il y a du travail à faire. Et que dans ce monde, j'aimerais te couronner en tant que roi. Et dans le cadre de ton couronnement en tant que roi, j'ai un travail. C'est quoi mon travail? C'est faire admettre à un maximum de personnes et d'objets possibles la royauté de Dieu. Le fait qu'on est dépendant de Dieu. Ça, c'est mon objectif. Et c'est pour ça que je suis là sur Terre, parce que sinon, j'ai rien à faire ici. Donc voilà ce que je dis à Kadosh Baruch Hu. Je dis, écoute, il y a des choses dans le monde qu'il n'y a que moi qui peux faire. Tu m'as envoyé sur Terre avec une mission, parce que sinon, j'ai rien à faire ici. Donc moi, je suis dit à Kadosh Baruch Hu, moi, en vérité, en ce qui me concerne, moi, je n'existe pas. Moi, je peux revenir, pas de problème. Seulement, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné une mission. Et je te couronne en tant que roi. Et pour moi, à quel moment je pourrais dire que tu es le roi du monde? Ah, ton roi, roi tout seul, le roi du monde. C'est le moment dans lequel le monde t'admet et accepte ta présence le plus possible. Donc je pense que j'ai un travail à faire dans ce sens. Mon travail à faire dans ce sens, c'est d'être un juif religieux, shomer Torah mitzvot, qui va faire le Shabbat, qui va faire ses fêtes, etc. Et qui va essayer de répandre le plus possible dans le monde, au travers de mes affaires, au travers de ma vie, de répandre le plus possible la présence d'Akadosh Baruch Hu, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pas fini. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que je dis à Kadosh Baruch Hu? Les firars, c'est pour cela. Mais va cacher d'un Israël, mais Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Juif demande à Dieu. Shehpialo et advarim alalu que deux shebem tzaduta imeshlim et ha'inyan emloch olam kula sheyachelav. Donc c'est assez fin ce qu'on est en train d'expliquer. Tu dis comme ça. Tu dis en vérité, moi Kadosh Baruch Hu, je veux que tu règnes sur le monde. Seulement pour que tu règnes sur le monde, tu dois passer par moi. Parce que c'est comme ça que t'es décidé.
Moi l'homme.
Mais attention, regardez comment je le fais. Toi, Kadosh Baruch Hu, pour que tu règnes sur le monde, tu as décidé qu'il faut que ça passe par les hommes. C'est les hommes qui vont te faire régner sur le monde. Donc, je te demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à te faire régner sur le monde. Parce que tu comprends, Hachem, si tu ne donnes pas à manger, si tu ne donnes pas la santé, D'accord ? Si tu ne me donnes pas les enfants, tu n'as pas ce que j'ai besoin.
Je peux rien faire.
Ma tête ne sera pas tranquille et je ne pourrai pas te servir. Je ne pourrai pas t'amener dans le monde. Donc, si on réfléchit bien, avec ça, on vient de répondre partiellement à la question. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui nous dérange jusqu'à maintenant ? C'est qu'a priori, on a une contradiction entre deux éléments. D'un côté, on parle de moi, d'un côté, on parle de Dieu. Alors c'est pour qui ?
Ils sont complémentaires.
C'est pas ça, ils sont complémentaires. C'est qu'en vérité, le centre de gravité reste Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Seulement, je dis à Hachem, si je te couronne en tant que roi, mon objectif n'est pas que tu sois roi dans les sphères célestes, parce que tu es déjà roi là-bas. Mon objectif et ton objectif, c'est d'être roi sur terre. Or, pour être roi sur terre, c'est toi qui as décidé dans ton système qu'il y a des parcelles divines et des tâches qui appartiennent à chacun. Or, pour accomplir ma tâche, il me faut des outils. Bon. Ça veut dire, par exemple, moi, Hachem, je veux bien faire le ménage, je veux bien être l'homme de ménage, faire le ménage, mais il me faut un balai. Tu comprends, j'ai pas de balai, je peux pas travailler. Alors, donne-moi le balai.
Je suis un passage obligé.
Ah. Non, pas du tout.
En somme, à Rosh Hashanah, on négocie un budget pour les frais de fonctionnement.
Exactement, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on va voir le roi. On dit, écoutez, d'accord, votre majesté, on vous couronne en tant que roi.
C'est important pour aller très vite.
Et dans le cadre de votre projet, pour que vous régniez, d'accord, il faut que vous fassiez ça. Donc donnez-nous tel budget, mais pas pour nous. Donnez-nous tel budget pour nous aider à prendre le contrôle de telle ville, de telle ville, de telle ville, pour vous. Pas pour moi. Pour vous. Ça veut dire qu'en vérité, lorsqu'un juif demande à Kadosh Baruch Hu la parnassa, la santé, etc., c'est pas pour lui qu'il demande, c'est pour Dieu.
Oh, mais ça, c'est bon pour quelqu'un qui a un but bien précis.
Alors, sauf que ça nous pose un vrai problème, parce que il faut être honnête avec nous-mêmes.
Comme ça, j'ai besoin.
Je veux bien dire, en théorie, c'est très joli ce qu'on a dit, c'est une belle réponse, d'accord?
Enfin, mais derrière ça, évidemment, voilà. C'est pour nous.
Et voilà, mais M. Vidal, il a raison. Faut appeler un chat un chat.
Après les chiens, les chats. Mais Mandy, c'est une relation de dépenses mutuelle dans l'homme. Si on prend les... Attends, laisse-moi finir. Si tu prends quelque chose de terre à terre, tu prends une entreprise. L'entreprise ne peut pas fonctionner si elle n'a pas des hommes qui vont travailler dedans. D'accord. Oui. Et le patron va donner pour le travail qu'il va faire un salaire.
Oui, voilà. Oui, vous en arrivez. Oui.
Et ben là, c'est pareil. Donc, dès lors qu'on va couronner.
Il n'y a pas que le salaire.
Bah oui. Dès lors qu'on va couronner Hachem.
Oui.
On va le couronner parce que lui va régner sur le monde comme on l'a demandé. Mais pour qu'on puisse nous faire notre boulot, faire ce qu'il nous a demandé, on a besoin de
d'outils.
Un nombre de choses. Donc c'est le temps de travail.
Oui, mais là, attendez. Attendez deux secondes.
Si on n'a pas son pour rien faire.
L'exemple de l'entreprise, excusez-moi de vous reprendre, n'est pas bon. 35 heures. Pourquoi ? Parce que l'employé.
Non, c'est pas une question.
Attendez, écoutez bien ce que je veux dire. L'employé qui va venir travailler. Imaginons que vous êtes le PDG d'une grande entreprise. Vous avez un employé qui va être là, qui va travailler. Cet employé, il travaille pour vous. En vérité, il travaille pas pour vous, il travaille pour lui. Parce que pourquoi il vient travailler ?
Bah pour les deux.
Non, pas du tout. Écoutez bien ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en vérité, pour qui il travaille ? Quelle est la raison de ton travail ? Il travaille pas pour faire plaisir, il travaille pas pour tes belles dents, d'accord ? Il travaille parce qu'il veut gagner des sous. Seulement pour gagner des sous, tu lui dis fais ce que moi je te demande et moi je fais ce que tu demandes. Il travaille pour l'entreprise, mais in fine, c'est autour de lui. Ça veut dire je veux gagner de l'argent. Donc comme je veux gagner de l'argent et toi tu veux un service, donc je te produis un service et toi tu me produis de l'argent.
L'entreprise aussi gagne de l'argent par le travail.
Évidemment, mais ça veut dire que l'employé, c'est pas une bonne sœur, excusez-moi du terme. Il est pas venu pour faire du bénévolat. Il est venu pour gagner des sous.
Ah bah oui,
on est d'accord.
Et l'entreprise aussi.
Attendez. C'est pas comme ça qu'on parle à Dieu. Je dis pas à Dieu, écoute, donnant, je bosse pour toi, tu bosses pour moi. Non.
C'est pas comme ça, deux secondes.
La différence, c'est que l'employé, il a pas élu son patron.
Je parle pas à Dieu comme un employé. Je parle pas à Dieu comme un employé. Je parle comme un employeur. Je parle à Dieu comme un collaborateur. C'est pas une paye que je te demande.
Non, tu parles d'un associé.
D'accord. Un associé. Je te dis à Kadosh Baruch Hu, je te demande du budget, mais pas pour moi. Moi, si tu décides que j'ai pas de travail, si tu dis que j'ai rien à faire dans le monde, reprends-moi, pas de problème. Pas de problème. Seulement à Kadosh Baruch Hu, je pense que j'ai un travail à faire sur Terre. D'accord. Donc à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de l'argent, donne-moi de la santé, donne-moi de la parnassa, pas pour moi. Pour toi. Pour m'aider à faire ton travail. Sauf qu'il y a un problème. Ça, je veux bien si on était les tzadikim. Qu'effectivement, le tzadik, il voit pas l'argent, mais il voit la mission de Dieu qui est accomplie avec l'argent. Il voit pas la santé, il voit pas, mais il voit la mission de Dieu qui est accomplie avec ça. Mais nous autres terriens, on voit peut-être pas ça comme ça. Donc, est-ce que c'est pas un peu malhonnête de parler comme ça? De dire à Dieu, chemin, la parnassa, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Pour toi.
Il faut pas oublier.
Écoute, quand tu vois la parnassa, tu vois la boutique en toute couleur devant toi. Eh oui, tu vois la boutique.
Quand tu vas servir un roi, il te faut les moyens.
J'ai compris. Mais encore une fois, ça veut dire, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de dire, paye-moi pour te travailler. On est en train, c'est pas une paye qu'on demande. On demande à Kadosh Baruch Hu. J'ai entendu ce que vous avez dit. On demande à Kadosh Baruch Hu. Tu es en train de dire qu'on lui dit, je te demande de m'aider à trouver ma mission pour te couronner sur terre. Donc, pour te couronner sur terre, j'ai un travail à faire, et laisse-moi le faire tranquillement, parce que si tu comprends que si j'ai pas la parnassa et la santé, j'aurai pas la tête tranquille pour faire ce qu'il faut faire. Donc, je le veux pour toi. Alors, quelque part, est-ce que c'est pas un petit peu...
C'est une façon détournée de lui demander.
Alors, écoutez bien ce que dit le Baal Shem Tov.
Tirer par les cheveux.
D'accord? Non.
Non.
C'est plus que tirer par les cheveux, c'est inventé.
Bah oui.
Ça s'appelle de l'autosuggestion.
C'est de
l'embrouille. Bah oui, c'est de l'embrouille.
Pas tellement.
Mais pour savoir ce qu'on a besoin, il faut connaître sa mission.
Attendez. Écoutez ce mot du Baal Shem Tov. Référence numéro 7. Le Baal Shem Tov s'arrête sur un verset du Tehillim.
Vous n'avez pas sorti le 6, non?
Non, je suis sur le 6, là.
Ah,
6. Le Baal Shem Tov s'arrête sur un verset dans Tehillim. Dans Tehillim, il est écrit comme ça. Le psaume 107, il est écrit « Re'evim gam tsemeim » que lorsqu'on est éprouvé par la faim et la soif, non, lorsque j'ai faim, j'ai soif, « Naf sham ba'em tit ataf » leur l'âme se languissait en eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte, le roi David est en train de dire dans le Tehillim, que lorsque j'ai faim ou j'ai soif, c'est mon âme, d'accord? C'est mon âme qui, c'est mon âme en vérité qui a faim et qui a soif. Mon âme, pas mon corps, mon âme. Qu'est-ce que dit le Baal Shem Tov? Keter Shem Tov, juste en dessous, c'est le Baal Shem Tov. Là, ma bara Kadosh Baruch Hu divrei ma'achal u'mashkeh shadam ta'avlahem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé des aliments et des boissons que l'homme désire? D'accord? Chacun peut s'imaginer dans sa tête maintenant un aliment ou une boisson qu'il désire. Pourquoi Dieu les a créés? Pourquoi Dieu les a créés de la façon que tu désires? Ve'atam shem mamash titutot. La raison, c'est parce que ces aliments sont les étincelles de Dieu. Ve'yesh lahem cheshek le'idabek bikdusha. Et ces étincelles ont envie de s'approcher de Dieu. Seulement, il y a un problème. C'est que si t'as pas envie, tu comprends, imaginons par exemple que j'ai devant moi un café. Si j'ai pas envie du café, jamais je serais parti chercher les étincelles qu'il y a dans le café. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait qu'en vérité c'est lui qui t'arnaque. Il te fait croire que tu prends le café parce que tu aimes le café.
Mais non.
Mais en vérité, c'est du camouflage. En vérité, la vraie raison pour laquelle t'as pris le café, c'est parce que ton âme avait envie de prendre les étincelles qu'il y avait dans le café. Que dit Baal Shem Tov? Regardez comment il termine, il dit, Kisha Adam, Ra'ev Vetsame, lorsqu'un homme a faim et a soif, l'amazé. Pourquoi c'est comme ça? Nafsham Ba'em Tit Ataf, c'est son âme qui s'en va là pour lui. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que le Baal Shem Tov nous apprend un très grand principe de l'envie. Il dit, il faut jamais se fier aux apparences. Toi, tu crois que t'es devant une belle assiette, t'as faim parce que ton corps a faim, effectivement, c'est appétissant. D'accord? Mais en vérité, si Dieu a fait que tu as envie, alors bien sûr, je vais pas manger comme un glouton, mais si Dieu a fait que tu as envie de manger ça, c'est en vérité, il savait que ton âme, si ton âme elle parle comme ça, ton âme elle dit bon, laisse-moi tranquille. Donc Dieu a dit bon, on va pas lui dire son âme qui parle, on va dire c'est ton corps qui parle. Mais en vérité, derrière ton corps qui parle, la vraie personne qui parle, c'est ton âme. C'est pour ça, des fois un aliment, il t'a l'air appétissant, et le lendemain, il te parle pas.
Ça parle beaucoup, là.
Ouais, mais ça
comment ça se fait? Comment ça se fait?
Ça passe d'abord par l'âme, et par le cœur.
Non, mais attendez, il faut voir ce que veut dire Baal Shem Tov. Qu'est-ce que veut dire Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov veut dire comme ça. Il te dit qu'en vérité, faut pas se fier aux apparences. Ça veut dire qu'en vérité, il faut savoir analyser la profondeur d'un sentiment. Toi, tu crois que tu vas manger parce que t'as faim, et parce que c'est appétissant, et parce que c'est bon, et parce que ça t'intéresse, ton corps. Mais en vérité, la vraie raison pour laquelle t'es attiré vers cet aliment, c'est parce que ton âme est attirée vers les étincelles qui se trouvent dans cet aliment, qu'il n'y a que toi qui peux récupérer. Donc ton âme s'arrange pour pousser ton corps à avoir envie de cet aliment. Comme ça, le corps, il prend l'aliment, et après, hop, l'âme, elle prend, elle remonte à la cadre. Donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est exactement la même chose, Rabotaï. C'est la même chose. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle de Rosh Hashanah. Lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, la vraie raison pour laquelle on demande à Dieu la parnassa, la santé, etc. La vraie raison, pas la raison que je pense. La vraie raison, c'est parce que mon âme, elle a envie de demander à Kadosh Baruch Hu de lui donner la parnassa, la santé, etc. Comme ça, j'arrive à travailler. Comme ça, j'arrive à faire la volonté de Dieu et j'arrive à amener la royauté de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Seulement, comme mon âme, elle sait très bien que ça, c'est un message qui n'est pas commercial, qui passe pas. Donc elle dit, écoute, t'inquiète pas, on va parler de ton magasin. On va parler de tes enfants, on va parler de ta femme, on va parler de ta santé, on va parler de toi. Tiens, parle-moi, le corps dit, je suis là, je suis partant. Et là, on enchaîne, amen, 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 il n'y a pas de problème. Ça, c'est la façon de l'âme pour attraper le corps. Mais, dit Baal Shem Tov, c'est ce que dit le roi David. Il dit que quand tu es affamé et assoiffé, la vraie raison, c'est ton âme qui a faim. C'est pas ton corps qui a faim. De la même façon, toi, tu crois, Rosh Hashanah, t'es en train de demander des demandes personnelles, etc. Tu crois que tu fais ça. Mais tu dois réaliser que la vraie requête qu'il y a derrière, c'est ton âme qui est en train de parler à Kadosh Baruch Hu, qui lui dit, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à accomplir et à te couronner sur terre. Donc là, on comprend, on comprend beaucoup mieux ce que dit le Zohar. Le Zohar dit, celui qui connaît ça, et qui est là, Rosh Hashanah, et qui pour, en train de demander des demandes personnelles, et en train de dire, moi, je pense pas à Dieu, moi, je pense que à moi, et que ça tourne autour de moi. On dit, mais tu n'as rien compris, c'est pas ça. Il y a un texte qui parle, bien sûr que le texte parle de tes demandes, mais ça c'est un camouflage pour exprimer la vraie requête, qui est la requête de ton âme, qui elle veut tout ça pour couronner Akadosh Baruch Hu. Et si elle veut plus d'argent, c'est pour donner plus de tzedaka, plus de santé, plus de sérénité, d'accord, etc. Ça veut dire que plus tout ce que je demande à Akadosh Baruch Hu, l'âme, ce qu'elle voit derrière, c'est comment avec ça je vais accomplir la volonté de Dieu, comment avec ça je vais couronner à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la vraie raison. Ah, je le sens pas. Ok, tu le sens pas. Pourquoi quand tu manges quelque chose, tu sens que c'est ton âme qui le veut? C'est pas parce que tu ne le sens pas. D'accord? Parce que ça, c'est une question de niveau de l'âme. Il y a des tzadikim qui sont au niveau de ressentir la profondeur de leur âme. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que tu ne le ressens pas que ça ne se passe pas.
Que c'est l'âme qui domine, finalement.
Ouais, évidemment.
Enfin, tout ça, c'est des leurs.
Alors. Non, c'est pas
leurs. C'est pour, oui. C'est pour naturer. C'est
évidemment. Ah oui. Ah oui.
Alors,
quoi? C'est ton âme qui le veut.
C'est ton âme qui tire ton.
Ton âme qui attire. Ouais.
Alors si dimanche j'ai écouté l'émission la religieuse. Non, juste pour.
En rapport avec le cours.
Non, c'est ça. En rapport avec le cours. Justement là, en reprenant ton idée là de l'âme qui va dire que tu dois aller faire ça pour ça pour récupérer les âmes divines, etc., etc. Eh ben ils ont dit la même chose par rapport au son du chauffard, parce que le chauffard va réveiller toute l'énergie de là pour qu'elle puisse rentrer en action et mener sa mission à bien. Donc on est bien là.
Oui,
là-dedans.
Exactement.
Et la requête, elle est la même.
Et donc c'est ça. Donc ça veut dire qu'en vérité, ce que je vais demander à Rosh Hashanah, ça exprime la fin de mon âme, pas la fin de mon corps. Moi, je crois que c'est la fin de mon corps qui veut manger, qui veut la parnassa, qui répond amen, amen, je veux la parnassa. Mais en vérité, derrière tout ça, la vraie raison, c'est la fin de mon âme. Mon âme a envie qu'on lui donne du travail et qu'on l'aide à amener le couronnement et la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Maintenant, avec ça, on va comprendre, on va revenir à la question de départ. Rappelez-vous, la prière de Hana. D'accord? On est d'accord. Alors, le rapport est très simple. Le rapport est magnifique. C'est que ce paradoxe qu'on vient de trouver, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les demandes personnelles, mais d'un autre côté, on arrive à un niveau dans lequel il n'y a plus de demandes personnelles et que les demandes personnelles sont simplement une façon de couronner Akadosh Baruch Hu et d'accomplir le dessein d'Akadosh Baruch Hu sur Terre. D'accord? Ben c'est exactement ça le débat idéologique qu'il y a entre Eli et Hana.
C'est un moyen, pas un but.
On va lire dans les mots, dans la référence numéro 7, la réponse de Rabbi. On va laisser parler des mots. Ta'anat Eli Aïta. L'argument d'Eli était le suivant. Shebe'et amitat Adam ifne Hashem. Lorsqu'un homme se tient devant Dieu, en makom klal chiye Adam shakua beotashal bevakashat tiningashmiyim. La profondeur de l'argument de Reli était que lorsqu'un homme se trouve devant Dieu, il ne doit pas se préoccuper de rien d'autre à part Dieu. Ça veut dire, il lui dit, madame, vous êtes venue ici au temple. Au temple, on ne demande pas à Dieu des enfants. Au temple, on demande à Dieu, je veux m'attacher à toi. Vous suivez? Ça veut dire que Reli, c'était son approche. Il est en train de dire, quand on arrive au temple, on a une seule pensée en tête, Dieu. Et c'est logique de penser comme ça. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il lui dit, madame, lorsque vous arrivez au temple, vous vous effacez complètement. C'est pas le moment de faire vos demandes.
C'est ce qu'elle a fait.
Pas du tout.
Non,
pas du tout.
C'est plus ce qu'elle a dit.
Attends, monsieur Benita, s'il vous plaît, laissez-moi arriver jusqu'au bout. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire, il te dit, tu veux faire des demandes personnelles, tu les fais chez toi. Quand tu viens dans le palais du roi, tu parles pas de toi, tu parles du roi. Tu comprends ça? Quand tu viens dans le palais du roi, tu dis, votre majesté, vous êtes beau, vous êtes grand, et tu t'arrêtes là. T'es pas là à raconter tes demandes, j'ai besoin de ci, tu te tais de ce monde. Il faut me laisser aller jusqu'au bout. Et donc ça c'était l'approche de Eli, qui est une approche qui se défend. Il dit, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit pour ça. Vous voulez faire ça, faites-le chez vous, faites-le dehors, pas dans le temple. Dans le temple on parle que de Dieu, c'est la maison du roi, on parle que du roi. C'est pas le moment de parler de choses matérielles, c'est pas le moment. Et donc c'est pour ça que Aïl est considéré comme un agazo, il m'attache le shirou des rotsonotea. Il dit cette conduite serait une ivresse de ses volontés. Ça veut dire que parfois la volonté d'un homme peut le rendre ivre au point qu'il se rend pas compte où il est et qu'est-ce qu'il fait. Ça veut dire quand il lui dit qu'elle était ivre, c'est pas qu'elle était saoule. C'est que de la même façon qu'une personne qui est ivre, il se rend plus compte de ce qu'il fait, il est en train de lui dire, madame, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Votre requête n'est pas à sa place. C'est pas ici qu'il faut parler à Dieu de vos demandes personnelles. C'est pas le moment. Ici, on parle que de Dieu. Vous comportez comme quelqu'un de ivre qui ne réalise pas, qui réalise plus le contexte. Le contexte ne s'y prête pas à vos demandes personnelles. Qu'est-ce que répond Chana? Valze, Shiva Chana, sur ça, Chana répond, elle dit non. Vaishpor et Tavjil, il n'a jamais dit, toi, tu crois, Eli, que je suis en train de demander un enfant. C'est pas un enfant que je demande. Je sens que ma mission n'est pas complète tant que j'ai pas d'enfant. Je sens que je sers à rien sur cette terre. Je sens que pour accomplir ma mission sur cette terre, il faut que j'éduque un enfant. Et qu'avec cet enfant, c'est un enfant que je vais te donner. Pas, c'est pas donnant-donnant. C'est que quand je sens que ma mission sur terre, c'est d'éduquer un enfant et que cet enfant te servira. Donc c'est ce que Hannah est en train de répondre à Eli. Elle lui dit, toi tu crois que j'épanche mon corps devant Dieu, que je suis en train, que le contexte ne s'y prête pas. Non, c'est pas mon corps que j'épanche devant Dieu. Rappelez-vous ce qu'a dit Baal Shem Tov. Derrière le corps se cache l'âme. Vaeshpor et nafshi lifnei Hashem. C'est mon âme que je suis en train de déverser devant Dieu. Ça veut dire, tu crois que c'est une requête personnelle d'une maman qui veut un bébé? Non! Je suis pas une maman qui veut un bébé. Je suis une femme juive qui veut accomplir la volonté de Dieu sur terre et qui pose la question, comment je peux amener Dieu sur cette terre? Et je me dis, mon rôle, en tant que maman juive, d'accord, en tant que femme juive, c'est d'avoir un enfant, d'éduquer un enfant et de faire de cet enfant un prophète. Quelqu'un qui va servir à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas le faire. Alors, je demande pas à Kadosh Baruch Hu un enfant parce que mon instinct maternel veut un enfant. Je me cache pas derrière ça. Moi, je vois ce qu'il y a derrière cet instinct maternel. Derrière cet instinct maternel, il y a une âme. Et cette âme, elle veut éduquer un enfant dans la Torah, un enfant qui va te servir à toi, Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'elle répond. Rédi, quand il a entendu ça, il a senti la vérité qui se cachait. La sincérité, la vérité, l'authenticité qui se cachait derrière les paroles de Chana. Et il a dit, vous avez raison. Et c'est pour ça que, comme j'ai montré tout à l'heure dans la Gemara, la majeure partie de la Chod de l'Amida, de qui on les apprend, de Chana, elle nous a appris ce que c'est une prière. Elle nous a, parce que Chana nous a appris comment résoudre cette équation. Comment d'un côté, la Amida est un moment dans lequel tu dois parler que de Dieu parce que tu es devant Dieu. Mais d'un autre côté, on te demande de parler, la Amida, le texte est de demande personnelle. Alors qu'est-ce que je fais ici? Chana nous a résolu cette équation. Elle dit non. Elle dit quand tu fais la Amida, de Rosh Hashanah et de toute l'année, mais en particulier Rosh Hashanah, tu fais une demande personnelle qui exprime en vérité une envie que tu as de servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Et c'est ce que répond Chana. Et Eli, quand il a entendu ça, il a accepté. Alors, ou que Shem, Shemane Chana, Nistatan, Melagamet, Amrateli. De la même façon que la réponse de Chana supprima complètement l'objection d'Eli. C'est-à-dire que Eli, il a accepté. Adacher, Adraba, Iskim, Ima. Non seulement que Eli, il a retiré son objection qu'il avait sur son comportement. C'est-à-dire, Eli pensait que c'était pas adéquat de demander une demande personnelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à Chana, personne au temple demandait une demande personnelle. Au temple, on s'oubliait, on s'effaçait. Chana a innové. Elle a dit non. Je demande une demande personnelle, mais c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Eh ben, non seulement que Eli a retiré son objection qu'il avait contre ce comportement, mais Eli a carrément accepté avec ça. C'est-à-dire que dorénavant, le cours et la teneur d'une prière a changé. Alors, car de la même façon, les Maléa Kadajorat Bakashot Shelkol Echad d'Israël, de la même façon, on se souhaite que Dieu satisfera les requêtes personnelles, d'accord? Mais personnelles, mais divines, de chaque juif. Les Shana Tova Umtuka. Pour une bonne et douce année. Kipshuta au sens littéral. Parce que si c'est pas au sens littéral, on n'est pas tranquille. On n'arrive pas à servir Dieu. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, on veut une bonne année. Pas parce que je veux une bonne année. Parce que tu veux une bonne année. Si tu veux que je bosse, il faut me donner une bonne année. Parce que sinon je peux pas bosser. D'accord? Betov anire vanigle, d'un bien qui est visible et tangible, be vané, raye ou maisonné, on demande à Dieu les enfants, la santé et la prospérité, la parnassa, ou be roulam, et dans tout cela, révirer dans la largesse. Pourquoi? Pas pour moi, pour toi. Donc ça, c'est un commentaire extraordinaire que le rabbi avait fait. D'ailleurs, ça, c'est un commentaire que le rabbi avait fait. Tafshin Lamed Vav. Tafshin Lamed Vav, c'était donc il a fait ça le deuxième jour de Rosh Hashanah en 1975, d'accord? Et il avait dédié ce commentaire à la mémoire de sa maman. Il s'appelait Chana. La maman du rabbi est décédée le 6 Tishri. D'accord. Le site Tishri entre donc c'est le site Tishri c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc chaque année le rabbi faisait un Fabringen bien sûr à la mémoire de sa maman. Et là donc justement lorsque c'était donc pratiquement 10 ans après le départ de sa maman, le rabbi avait fait un Fabringen et il a dédié ce cours sur la prière de Hana à la mémoire de sa maman qui était la rabbinite Hana, Ça c'est extraordinaire. Donc quand on voit un commentaire comme ça, ça nous donne une façon complètement différente de voir la prière, et de voir Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est pas incompatible de demander la matérialité. Je demande pas la matérialité pour moi. Je demande le matériel pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Baal Shem Tov, je terminerai avec ça. Le Baal Shem Tov, il a parlé souvent des juifs qui avaient à l'époque ce qu'on appelait des kretschmes. Kretschmes, c'était une sorte de bar. Ça, à l'époque, les juifs n'avaient pas accès à beaucoup d'emplois. Mais un des emplois auxquels les juifs avaient accès, ils louaient un hôtel, une auberge. Et en bas de l'auberge, il y avait un café, un bar. Et donc, ça leur faisait une parnasse à les gens. Il y avait des gens qui dormaient dans les étages, et il y avait des gens qui venaient boire. Alors, le Baal Shem Tov a dit comme ça. Le Baal Shem Tov, il a dit, pourquoi, bon, vous comprenez que c'est des endroits qui étaient, j'ai pas envie de dire peu fréquentables, mais bon, c'est un endroit c'est compliqué pour rajouter dans un endroit comme ça. C'est une auberge, c'est un café, les gens ils boivent, c'est les goïms qui boivent. Vous savez comment ils sont les goïms quand ils boivent? Des hommes, des femmes, c'est compliqué, c'est un endroit qui est pas pour un juif. Et le Baal Shem Tov, il a dit comme ça. Baal Shem Tov, il a dit en vérité, la vraie raison pour laquelle les juifs ont une parnassa comme ça. Une parnassa qui est cachère, attention, je dis pas qu'elle est cachère, mais bon, c'est compliqué. Il dit, la vraie raison, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent pour marier leur fille avec des érudits. Parce qu'à l'époque, quand on voulait marier sa fille avec un érudit, il fallait assurer la dot. Et donc, il dit, la vraie raison pour laquelle ces juifs-là, ils veulent gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils ont plus d'argent qu'un juif moyen, c'est parce qu'ils veulent avoir des moyens conséquents. Pourquoi ils veulent avoir des moyens conséquents? Parce qu'ils savent qu'ils ont des enfants à marier, et ils veulent que le jour où ils auront leur enfant à marier, ils veulent trouver un Talmid Chacham auquel ils pourront dire, tu peux rester étudier 15 ans, je paye. Maintenant, il sait que pour payer pendant 15 ans, il faut
faire travailler l'auberge.
Il faut avoir de l'argent de côté. Et dit le Baal Shem Tov, la vraie raison pour laquelle ils cherchent à gagner beaucoup d'argent, c'est pour ça. Ça veut dire que c'est une approche complètement nouvelle ce qu'on nous dit ici.
Mais comment le
c'est
pas le forex.
Non, attention, on parle pas d'action illégale ou contraire à la halakha. Mais il y a des fois des choses qu'un juif, c'est pas son domaine de prédilection naturelle, et il le fait pour gagner des sous, pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi il veut gagner beaucoup d'argent? Pour acheter un yacht supplémentaire, pour acheter un jet,
il a déjà,
pour acheter encore une maison. Non. Parce qu'en vérité, il veut faire des mitzvot. Ah, il le sait pas. Alors, il le sait pas. Il le sait pas encore. En vérité, le but de tout ça, pourquoi il va gagner tout ça, c'est parce qu'en vérité, au fond de lui, son âme veut faire les mitzvot. Parce que sinon, son âme ne l'aurait pas laissé faire. Ça veut dire que si, par exemple, dans cet aliment, il n'y avait pas les étincelles qui correspondaient, mon âme m'aurait pas laissé manger. Elle m'a dit, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que fait mon âme? Alors, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de manger quelque chose de pas cachère? Ok, c'est une question. Moi, je me sens suspens, je réponds pas à ça maintenant.
C'est pas contradictoire.
Non, c'est sûr que contradictoire. Parce que Bachetov a dit que lorsque j'ai envie de manger quelque chose, c'est mon âme qui a envie de manger.
Oui, mais avec la limite fixée au départ.
Si j'ai envie de manger quelque chose. Bon, ok, on va répondre à la question.
Dans les trucs non cachers, il n'y a probablement pas d'étincelle.
C'est pas si simple. Mais bon, je rentre pas dedans. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que nous avons maintenant résolu l'équation avec la tefila de Hana. Et donc, avec ça, on a résolu qu'il est évident, Rabotai, que Hana n'était pas, évidemment, Hana n'était pas saoule. D'accord? Elle n'était pas saoule du tout. Par contre, quand on parle d'ivresse ici, c'était une ivresse dans le sens qu'elle parlait des besoins matériels dans un lieu qui ne s'y prêtait pas. Et c'est pour ça que Eli pensait que ça ne se faisait pas. C'est pas l'endroit pour parler de ça. Hana a innové, elle a expliqué, elle a dit pas du tout. On le fait parce que ma demande personnelle, c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que lorsque son mari, il lui a dit, moi je suis mieux que 10 enfants, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem? Elle était pas en train d'acheter Hachem. Elle a dit, mon enfant, je le donnerai pour toi. Mon but pour avoir un enfant, c'est pour toi, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que mon but, c'est pas l'instinct maternel, c'est pour toi, Kadosh Baruch Hu. C'est pour que je puisse avoir un enfant qui puisse te servir à toi, Kadosh Baruch Hu. Et on comprend que c'est la raison pour laquelle c'est la première haftara de l'année, c'est une haftara centrale. Le premier jour de Rosh Hashanah. C'est quand même pas rien. Parce que c'est le message de Rosh Hashanah. C'est ça le message de Rosh Hashanah. C'est comment résoudre ce paradoxe, comment d'un côté j'ai une demande personnelle, mais d'un autre côté je le fais pour Akadosh Baruch Hu, et c'est avec ça qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Donc en d'autres termes, je dis à Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour moi que je demande, c'est pour toi que je demande. Et vraiment, je le pense vraiment. Alors, il faut se convaincre. Et si on n'arrive pas à se convaincre, eh ben, on va gratter notre âme. Mais c'est la vérité, c'est ce qui se passe.
Mais étant donné que Hana, elle priait comme ça avec les lèvres et tout ça, comment le prophète Élie, il pouvait deviner ce quelle était sa requête?
Parce qu'encore une fois, monsieur Benita, parce que si elle était simplement en train de, d'épancher son corps, parler comme quelqu'un. Quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles à voix haute. Mais là, pourquoi elle parle à voix basse? Parce que c'était pas son corps qui parlait, c'est son âme qui parlait.
D'accord, mais comment lui peut savoir?
Attendez, écoutez ce que je viens de dire. C'est son âme qui parlait. Donc l'âme ne parle pas comme le corps. L'âme, elle a d'autres façons de parler. L'âme, elle a une... Ça veut dire que le corps, si vous voulez, il faut qu'il dérange le moins possible. Il faut juste qu'il exprime ce que l'âme dit. Il faut pas que le corps prenne le relais, que c'est lui qui parle. C'est-à-dire, il faut juste que ça transite par lui. Quand tu fais de la mida, pourquoi on te dit pas faire à voix haute? Parce que tu fais à voix haute, tu te perds dans le corps, dans la voix, etc. Non. Quand tu fais de la mida, c'est la voix de l'âme qui transite par le corps. Juste elle transite. Donc il faut pas dépasser. C'est pour ça que vous avez vos basses. Mais en vérité, c'est la voix de l'âme qui vient. Et ça, c'est la tuile de Khana. Donc Khana nous a appris la prière.
D'accord. Une petite question. Vous dites que il me semblait que quand les juifs allaient au Beth Amigdash et faisaient un corban pour expier leur faute, pour certains, j'imagine.
Oui.
Ils faisaient des requêtes personnelles.
Non, c'est pas une requête personnelle. J'ai fauté envers Dieu, je demande pardon.
C'est pas vrai. Il parle d'eux, là.
Non, regardez. On va prendre quelque chose de très simple. Imaginons, l'approche de Élie était la suivante. Imaginons un beau jour, d'accord? Imaginons un beau jour, j'ai envie d'aller au temple. Comme ça, pour aller au temple. Je pense à quoi quand je suis au temple? Est-ce que je pense au fait que je dois m'attacher à Dieu? Ou est-ce que je fais des demandes? Je demande à Dieu, demande à la parnasse, demande à la santé. Élie pensait que lorsque tu rentres dans le temple, c'est inadéquat de te mettre à penser à tes demandes personnelles. Tu dois t'effacer complètement.
Quand le juif a amené son corban, il pense à lui.
Non, mais c'est pas lui. Attendez, là, c'est pas lui. Au contraire, il pense à Dieu. C'est comme par exemple, imaginez par exemple que j'ai offensé le roi. Je vais amener un cadeau au roi.
Mais c'est dans mon intérêt.
Non, c'est pas dans mon intérêt.
Bah si, ou sinon je vais me faire.
Mais pas du tout, j'ai envie de.
Il y a des équilibres que tu vois.
Il y a exactement. J'ai un manque de respect envers le roi, je dois essayer de réparer ça. Mais c'est pas pour moi que je fais, c'est pour l'honneur du roi. Vous comprenez? Je suis pas en train d'acheter le roi. Je suis pas en train de l'acheter. Je suis en train de lui demander pardon. Vous me suivez?
C'est pas pareil. C'est pas pareil.
Et de lui remercier.
Bah oui. C'est le roi qui m'a dit ça. Le roi, il m'a dit le jour où tu.
J'ai offensé le roi.
Bah oui.
Si je vais pas.
Alors je vais me laisser tuer. Je vais aller m'excuser.
Oui, ça peut prendre comme ça peut pas prendre.
Non, mais attendez. Quand je vais aller m'excuser, très important. Vous savez que quand on a amené un corban, on devait faire tes choubas avant d'abord. C'est pas, j'amène le corban, j'achète le roi.
Non,
ça marche pas comme ça. Avant de venir faire le sacrifice, d'abord, j'ai déjà fait tes choix dans mon cœur. Et après, j'amène le corban, c'est comme un bouquet de fleurs. C'est pour le roi. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous venez pour parfaire votre teshuva. Pour lui dire, voilà, à cada jour, je te montre, je t'en sers. Mais le plus important, c'est la teshuva. Et là, je t'amène le bouquet. C'est le plus important, le bouquet. D'accord? Enfin, la teshuva le plus important, pardon, le bouquet vient parfaire ça. Mais, encore une fois, on voit ici à quel point, à quel point, même dans le corban, c'était pour Dieu. Et c'était l'approche de Élie.
Oui, c'est pour Dieu, mais c'est... est-ce qu'il y avait des... Alors, voilà, ma question, est-ce que un juif, tout va bien dans sa vie?
Oui.
Il est bien, il a tout ce qu'il faut.
Ouais.
Tu me le présentes. Il a besoin de rien.
Très bien.
Enfin, grâce à Dieu, il est bien.
Bon, il est bien, d'accord.
Est-ce qu'il va aller faire un corban comme ça pour le kiff?
Pas du tout.
Il n'y a aucun intérêt.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison.
Il n'y a aucune démarche.
Et il le faisait quand même.
Est-ce qu'il y en a qui le faisaient?
Évidemment. Parce qu'il y avait juste comme pour le plaisir, bien sûr, s'appelait les familles, bien sûr, comme ça.
Mais alors, ce type, il le faisait, qu'est-ce qu'il voulait se faire pardonner?
Mais il y a pas, un sacrifice, c'est pas comment se faire pardonner? Non! Un sacrifice, c'est comme une prière. Pourquoi tu fais une prière?
Non, mais ce que je veux dire,
mais quel est le lien?
Pourquoi tu fais une prière? Tu fais une prière pour demander, et si j'ai rien à demander? Et si j'ai rien à demander? J'ai rien de spécifique à demander, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave! Ce qui compte, c'est de parler à Dieu. Je parle à Dieu. Seulement, je dis à Dieu, je te parle. Et comme je te parle, je dis, écoute, j'aimerais vraiment que tu sois le roi de la terre. Et pour que tu sois ça, il faut que tu ne la parles assez à la santé. Comme ça, je peux faire mon travail. Pas pour moi, pour toi.
Il y a le lien entre Dieu qui nous a élus pour que nous, on l'élise.
Rochana, c'est le contraire.
Non, mais il a accepté ce peuple. Il a élu ce peuple-là.
Tu vois les livres.
Et après, il dit, maintenant vous avez été élu, maintenant débrouillez-vous. Maintenant, c'est vous qui allez m'élire.
Évidemment. C'est ça
la démerde.
C'est ça ce qui se passe à Rochana. À Rochana, on doit élire Dieu.
L'idée. Bon. Et on a toujours été
confronté à ça, le peuple juif, justement, c'est parce qu'on est le seul peuple sur la planète à avoir élu, c'est nous qui avons élu notre
oui.
Voilà. Non, mais c'est important. Ils auraient écrit des milliards de bouquins là-dessus.
Ouais, enfin, d'un côté, on dit que c'est, hein, d'un côté, on dit c'est lui qui nous a élus. Et là, il a, oui.
Non, il a fait en sorte que notre corps est attiré et qu'on croit que c'est notre corps qui est attiré. Et quand je pense à Rosh Hashanah à Parnassa, mon corps croit que je suis intéressé parce que je suis intéressé à la boutique. Alors qu'en vérité, ce qui se cache derrière, c'est mon âme.
C'est
la réalité. C'est la réalité.
Il a influencé. Il a influencé ça.
C'est quelque chose qui l'intéresse pour lui.
100%.
C'est-à-dire qu'il a mis en place ça, quand
oui.
même.
Et alors, c'est pas, quand on arrive à quitter, tu dois pas manger, programme, tu dois pas boire, parce qu'il y a une
programme,
autre...
programme.
Il y a une autre lecture.
Qui porte encore une autre dimension. Ça, il faut qu'on s'arrête dessus.
Je disais, dans le Tania, il y a marqué,
et oui, et alors, et si t'es Neshama, elle te réclame.
Il y a que la couronne.
Tu lui donnes pas.
Tu lui donnes.
Oui, mais encore une fois. Mais encore une fois, parce que dans le système que Kadosh Baruch Hu a fait, pour le couronner en tant que roi, ça doit passer par nous. C'est nous qui allons le faire descendre sa royauté sur terre.
Attention.
Si il est roi en haut, ça sert à rien. Il doit être roi en bas. Vous comprenez? Un roi qui dit à la maison chez lui, je suis roi du monde, mais que personne ne le connaît.
Il finit comme le Titanic.
Ouais, merci. Allez. Dis à la prochaine.